Comment vivre une vie sportive et équilibrée et en faire le fil de sa vie, même en vieillissant? C'est notre discussion avec Nathalie Simon. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans KM42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, de sport et surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien vieillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos, je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Et je vous avais raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aider à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous voulez des conseils complémentaires, mes offres de coaching, d'accompagnement, mes formations ainsi que mes autres podcasts, et ben rendez-vous sur bertrandsoulier.com. Bien entendu, je mets l'adresse dans la description de l'épisode. Et aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de recevoir Nathalie Simon. Pour moi, elle est l'exemple de la femme sportive. Bien entendu, j'ai l'image d'elle, de la professionnelle de planche à voile quand moi j'étais ado. On pourrait aussi parler de ses émissions à la télévision, mais en fait, j'en ai pas du tout parlé avec elle dans cet épisode, car ce qui m'intéresse, c'est sa vision du sport, sa vie avec le sport, son mode de vie, son équilibre. Nathalie Simon, pour moi, c'est l'image de la sportive, la femme sportive, celle qui marche, qui escalade, qui roule, qui court, qui nage. D'ailleurs, elle fait du triathlon. Et justement, elle nous explique aussi pourquoi elle fait du triathlon, comment elle est venue au triathlon et pourquoi elle se limite, entre guillemets, au half. Hein, pourquoi elle se limite sur cette distance-là? Car c'est une question d'équilibre de vie. Nous avons parlé de la différence entre sa vie sportive professionnelle et sa vie de maintenant, sa vie sportive de maintenant, et donc sa vision de ses objectifs personnels et sportifs. Nathalie Simon a cette vision du sport santé, du sport qui nous permet de progresser, ce sport pour bien vieillir, devenir ces champions et championnes du monde de notre monde, mais aussi des vieillards galopants. Et puis dans cet épisode, il y a un bonus, je teste un nouveau format. Avec Laure, nous avons décidé de faire un rebond directement à la fin de l'épisode et non pas dans une nouvelle minute perf qui serait séparée. Nous revenons ainsi sur cet échange avec Nathalie Simon et ce que nous pouvons en retirer aussi pour nous par rapport à notre vision du sport, de l'équilibre de vie, la performance, mais aussi la définition de nos objectifs et la poursuite de nos rêves, notamment par exemple celui de courir le marathon pour tous pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc ne quittez pas car après ma discussion avec Nathalie Simon, ça s'enchaîne directement. Je suis très fier d'avoir pu recevoir Nathalie Simon dans ce podcast et de vous proposer aussi ce format inédit. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi et autant que la petite partie bonus avec Laure. Je vous laisse maintenant écouter ma discussion. Mais avant, je fais une petite pause publicitaire car en plus des programmes et des accompagnements personnalisés dont j'ai déjà parlé, c'est la pub qui me permet aussi de financer ma vie de podcasteur sportif. J'en ai besoin, c'est comme ça, et de devenir moi aussi champion du monde de mon monde. Allez, c'est parti.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Alors, c'est rigolo que vous me posiez cette question parce que j'ai coutume de dire que je vais toujours bien et que quand je vais pas bien, je vais bien quand même.
Oui, mais alors en fait, c'est un petit peu l'image qui ressort quand on regarde un petit peu ce que vous faites sur les réseaux, sur LinkedIn, sur un petit peu partout. C'est un petit peu l'image que j'ai en fait.
Ben oui, mais je vais bien. Je vais pas faire semblant d'aller mal. Non, mais je suis quelqu'un d'extrêmement positif. Quand je me réveille le matin, je me dis toujours que c'est une belle journée. J'ai tout de suite le sourire. Ouais, je suis assez positive de nature. Bien entendu, hein, comme tout le monde, il m'arrive des moments de doute, des coups durs, des chagrins, etc. Mais j'essaye de faire passer les orages le plus vite possible.
Vous avez une méthode pour ceux qui se posent, s'il y a une méthode particulière ou c'est le mode de vie, c'est un mode de pensée, c'est l'expérience, je sais pas.
Alors, je pense qu'à la base, c'est déjà un caractère. On a un caractère plus gai ou plus mélancolique. Voilà, ça c'est un petit peu coup de bol ou pas. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs. Est-ce qu'il faut être heureux tout le temps? Est-ce que c'est bien? Je sais pas. Je ne fais pas de prosélytisme sur le bonheur, mais je suis plutôt voilà comme ça. Et puis je l'entretiens quand même un petit peu. De toujours faire en sorte que quand j'ai pris une décision, elle soit la bonne. Et bon, parfois ça rate, mais j'essaye d'en tirer des enseignements plus positifs que négatifs. Et ça, c'est peut-être l'école aussi, une forme de résilience marquée pour se construire dans l'échec. J'aime pas les petites phrases, c'est dans l'échec qu'on construit les plus grandes victoires. Non, ma vie n'est pas une quête de victoire, mais juste d'avoir le sourire, de profiter. Alors c'est pareil, on dit l'instant présent, bah oui, oui, l'instant présent. Voilà, c'est des fois un défaut, hein, parce que ça veut dire que je suis pas quelqu'un qui fait des plans sur la comète, qui se dit dans 10 ans je serai comme ça, dans 20 ans je serai comme ça, pas du tout. Moi déjà, j'ai coutume de répondre, mais dans un mois, est-ce que je serai encore vivante ? Voilà. Donc je profite du moment.
Oui.
Comme d'être avec vous en ce moment, par exemple, Bertrand.
Oui. Voilà. Et en fait, c'est une chance. Alors parce que dans ma communauté, quand j'ai annoncé que vous veniez, j'aurais demandé si vous avez des questions. Et c'est drôle parce que en fait, il y a quelqu'un qui m'a remonté un autographe qu'il avait obtenu au Salon Nautique en 1994.
Et vous n'étiez pas né, Bertrand, en 1994.
Et si.
Je suis ton père, comme dirait l'autre.
Oui. Mais en fait, vous pourriez être ma mère, mais vous étiez plutôt en fait une image que j'avais dans les magazines quand j'étais gamin, que je regardais la planche à voile. Parce que je me suis rappelé de Bercy, le funboard, etc. Toutes ces images-là, je me disais que c'était drôle, et c'était incroyable quand même, c'est ce qui se faisait à cette époque-là. Et de vous voir toujours bouger autant, parce que j'ai regardé votre petite vidéo tout à l'heure pour regarder à nouveau. Vous faites quoi? De l'escalade, de la rando, de la montagne, du triathlon, de
tout,
quoi?
Tout ça. Oui, je fais beaucoup de triathlon et après je fais tout ce que vous venez de dire, oui, tout ça. Mais alors j'ai une deuxième chance, c'est que j'ai une vitalité, je pense, assez hors du commun, voilà, en moi. Ça, je le tiens de mon père, qui a vraiment une forte vitalité également. Et dans ma famille, ma sœur aussi a une très forte vitalité. Donc on est, je pense avoir la vitalité de quelqu'un de votre âge, peut-être même un peu plus parfois le matin, le réveil, je sais pas. Je suis du matin, moi, Bertrand. Je dors beaucoup, je ne bois pas, je fais du sport, je mange sainement. Donc je me suis créé un environnement, un way of life, un style de vie, une hygiène de vie qui correspond complètement à ma nature. Donc du coup, je vieillis plutôt bien, voilà.
Mais c'est en fait, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire nous sur le dans Kemet 42, dans le Mister Zoning Club, c'est justement on cherche la recette justement parce que moi, on a l'image de billard galopant, se dire comment on fera pour continuer à faire du sport pendant longtemps. J'ai vu qu'il y a pas longtemps, vous parliez sur le triathlon, qu'il y avait beaucoup de masters dans les stages auxquels vous avez participé. C'est chouette aussi de voir aussi comment on peut garder à faire des performances du sport dans le temps en fait.
Mais d'ailleurs, quand je suis avec eux, je me trouve nulle parce que eux, ils sont encore plus à fond que moi. Vous savez, c'est la fameuse phrase de, quand je me vois, je me désole. Quand je me compare, je me rassure. J'accepte en réalité. Évidemment que je suis pas aussi performante que quand j'avais 20 ans, que j'ai ma peau a changé, mon corps a changé. Bon, même si je lutte, et que je suis partie de quelque chose de j'avais naturellement une silhouette athlétique de façon naturelle, mais je l'ai entretenue. Mais j'accepte de courir moins vite, de pédaler moins fort, j'accepte plein de choses du moment que je me sens bien. Voilà, moi je me sens bien, je me sens bien dans mes baskets. J'ai pas envie de dire dans mon âge parce qu'en réalité quand je pense, j'ai pas d'âge. Je pense pas à mon âge parce que c'est un peu faux de se dire j'ai tel âge, j'ai 58 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans. C'est plutôt qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis capable de faire ça? Aujourd'hui, par exemple, Bertrand, j'ai été courir une heure avec Tanguy et j'ai enchaîné avec la natation. Hier, j'ai fait 4 heures de vélo. Voilà, je me suis jamais arrêtée. Votre question, c'était comment faire pour vieillir et continuer à faire tout ça? C'est d'abord jamais s'arrêter si on a commencé un jour jeune et se dire toujours que le sport, c'est formidable parce que c'est gratifiant. Si vous vous mettez à courir alors que vous n'avez jamais couru à 40 ans ou 50 ans, vous allez pouvoir faire des marathons si vous le souhaitez. Si vous vous mettez à nager, vous allez pouvoir nager. Voilà, le sport, c'est génial pour ça. Ça vous permet de progresser. Quel que soit votre âge.
Alors ça, moi j'en suis témoin et je suis d'accord parce que j'ai commencé à courir à 40 ans, donc je l'ai vérifié. Et effectivement, le marathon, c'est quelque chose qui était jouable, même le 24 heures. Mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu le rythme, moi j'ai regardé le Strava parce que je suis pas le seul dans mes abonnés, là, les hamsters, on a regardé le Strava. J'ai regardé la séance de vélo, j'ai regardé la vitesse à vélo quand même. Moi qui débute dans le vélo.
Je vais pas très vite.
C'est encore relatif quoi.
Ben non, parce que par exemple, si vous avez regardé la séance d'hier, c'était hier, ben, c'était une reprise, j'ai pas roulé très très vite. Non, parce qu'en fait, le secret, c'est de pas être au taquet tout le temps.
Ouais.
C'est-à-dire que là, hier, j'ai fait une sortie, ce qu'on appelle en Z2, en zone 2. On a des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 6, c'est vraiment explosif, sprint. Et quand vous êtes en compétition, on va dire que vous êtes en Z4, Z5, d'accord ?
Ouais.
Et ben là, hier, j'étais en Z2. Et pourquoi j'étais en Z2 ? Parce que si je suis tout le temps en Z4, cœur au taquet, watt au taquet, ben, je ne vais pas tenir longtemps. Et surtout, je vais m'épuiser. Or, ce n'est pas le but. Moi, ce que je veux, c'est pas forcément faire de la performance, c'est être bien, c'est-à-dire c'est plus du sport plaisir santé même si j'en fais beaucoup que je joue pas ma vie quoi, je suis pas professionnelle, je ne suis plus professionnelle. Donc voilà, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de pas essayer de s'entraîner, de tout brûler en s'entraînant, voilà, de se griller en quelque sorte.
Alors, j'ai quelqu'un qui avait posé d'ailleurs la question sur cette histoire-là, de dire que la petite Nathalie, enfin la jeune Nathalie, on va dire, celle qui était professionnelle, etc., elle avait cette vision-là, comme ça, de la gestion comme ça, ou c'est vraiment quelque chose qui est venu dans le temps ?
Je me suis dit que j'avais aucune vision. Non, je blague. Non, à l'époque, à contrario, c'était mon métier.
Oui.
J'étais professionnelle, donc ce que je voulais, c'est être performante. Donc, j'étais pas du tout dans cet esprit-là. Aujourd'hui, je suis pas du tout professionnelle, même si on peut considérer que je suis un peu une professionnelle de la santé, donc du bien-être, donc un peu du sport, mais des sports, pas d'un sport en particulier. Oui, je fais des triathlons et j'essaye d'être performante, mais ça me permet de donner un peu de sel à mes entraînements, de motivation, d'être en club, etc. Ça, j'aime bien. J'ai un petit côté junior là-dessus. J'aime bien être dans un bassin avec d'autres gens, je trouve ça rigolo. J'ai l'impression d'avoir 12 ans de nouveau. Mais non, c'est vrai. Mais quand j'étais planchiste, c'était mon métier. Je gagnais ma vie comme ça. Et moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste. J'aime pas les choses mal faites. C'est un peu un défaut d'ailleurs. Hein. Je lutte pour lâcher prise parfois. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout cette vision-là du sport. Vous comprenez la différence ?
Oui, je la comprends très bien. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'après, quand on regarde un petit peu le parcours, on se dit pour durer.
Pour bien durer,
voilà, c'est ça, ouais. C'est bien le mot en fait, pour bien durer, parce que j'ai lu des choses sur l'entraînement des masters, etc. On sait aussi que cette histoire des zones, de l'intensité, du repos aussi peut-être aussi, qui change aussi.
La récupération.
Pour donner un ordre d'idée, parce qu'il y a des gens qui ont posé la question quand même en disant, vous avez dit vous êtes du matin, etc. Alors ils disent est-ce que vous avez une routine, quelque chose, mais vraiment sur le côté bien-être, un truc qui bien démarrer la journée, en fait.
Vous savez ce que Paulo Coelho disait ? Paulo Coelho a écrit « Si tu penses que l'aventure est dangereuse, et c'est la routine, elle est mortelle. » Alors, pour vous dire, du coup, c'est une réponse sans en être une.
Ouais.
Ça c'est, cette phrase-là, elle me parle beaucoup dans mon plan de vie, dans ma carrière, dans mes envies, etc. Je trouve que la routine, aller toujours aux mêmes endroits, voir toujours les mêmes personnes, faire toujours les mêmes vacances, ça c'est pas un truc qui me plaît réellement. J'aime bien changer, avoir l'opportunité de découvrir d'autres choses. En revanche, oui, le matin. Alors quand j'étais plus jeune, je me levais, je faisais 100 abdos comme une malade, j'allais assez vite. Voilà. Maintenant, je fais des étirements. Bon, voilà. Non, le matin, j'essaye de me lever un peu plus tôt, comme je suis du matin et que je suis un petit peu plus matinale que mon mari. Je profite de cette demi-heure, de ces 20 minutes pour essayer de me lever avec le soleil. Alors l'été, c'est de plus en plus tôt parce qu'il se lève tôt, mais j'aime ces moments-là où vous savez, où les oiseaux commencent à chanter, comme j'ai la chance d'habiter à la campagne. Mais même à Paris, hein, y a des oiseaux qui chantent. Hein. C'est incroyable. Ils sont joyeux, les oiseaux. Ils continuent à chanter. Et là, je fais abdos, gainage, étirement. Une sorte de warm-up, un peu comme le tour de chauffe des Ferrari, vous voyez.
Ouais.
Bon, ben voilà.
Bon, et à partir de là, on peut dire
que
la journée est lancée.
Vous faites quoi, vous, le matin?
Je fais à peu près la même chose, en fait. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est d'aller courir très tôt le matin, donc le soleil se lève, je dis que j'ai envie de le soleil.
Alors ça aussi, mais l'hiver, ça caille. Moi, je suis devenue frileuse, mais oui, alors j'ai aussi vous l'avez vu sur probablement sur ce que j'ai posté, des séances de run à jeun. J'aime bien, voilà, j'adore courir à jeun. J'adore courir, mais si je fais que courir, je vais me blesser.
D'accord.
Parce que la course à pied, ça peut blesser quand même. Il y a des chocs, voilà. Donc l'avantage du triathlon, c'est que je fais un peu tout. Je cours, je nage, je pédale. Ça me permet de continuer à faire de l'endurance sans forcément faire que du run.
Vous êtes venu comment finalement au triathlon en fait?
En me blessant. Pour la petite histoire que je vais faire un peu plus longuette, moi je faisais du snowboard depuis le début du snowboard. J'ai appris le snowboard au tout début.
Ouais.
D'abord du surf, du monoski, et puis après rapidement snowboard. Et puis quand on a eu notre fille, on s'est retrouvé un jour bloqué avec la petite sur une piste, sur une verre glacée. Elle devait avoir 3 ans, 4 ans, et nous on snow comme des idiots. Et donc il a fallu héler un Anglais. Il l'a prise sur ses épaules, il l'a descendue. On s'est dit on va se mettre au ski. Bon, c'était le ski parabolique qui arrivait. C'était assez sympa. Première semaine à ski, je me fais la jambe. Je passe les détails. Au bout de 6 mois d'attel, de machin, le chirurgien me dit, maintenant je peux plus rien faire pour toi. Tu vas te mettre au vélo et te remuscler dans l'axe. Et là, j'ai commencé à faire du vélo de route.
D'accord.
Et ensuite, j'ai commencé à me dire, tiens, il y a un pote qui m'a dit, ce serait bien que tu fasses du triathlon puisque j'ai fait de la natation quand j'étais gamine, j'adorais courir, voilà. Et voilà, le triathlon est né. Donc, c'était en 2004, je crois, dans les années 2000.
D'accord. C'est finalement, j'ai en train de dire, j'ai dire ça a marché finalement. C'est le conseil du médecin là, c'était du pédalo. C'était quoi pour dire
pour muscler dans l'axe,
ouais.
Pour pas abîmer l'articulation, pour recommencer à muscler la cuisse, les ischios, etc.
Ouais.
Et puis. Parce que en fait, quand on a été blessé longtemps, on a un phénomène de ce qu'on appelle de sidération, c'est-à-dire ouais. Le cerveau blacklist le membre concerné puisqu'il le considère comme défaillant.
Ouais.
Non, mais on est des petits tyrans hein, au niveau du cerveau, hein, c'est des spots, des dictateurs. Et donc, pour arriver à ce que ça fonctionne, c'est compliqué. C'est un peu long en fait.
Ouais.
Et j'essayais de courir, mais j'avais aucune sensation. C'est-à-dire, j'avais l'impression que ma jambe partait, comme je m'étais fait un croisé, que mon genou allait se déboîter, etc. Et donc lui, le chirurgien, qui était un mec extraordinaire, je dis qu'il était, parce que malheureux, il est décédé. Lui-même, il avait été amputé d'une jambe à la suite d'un accident de moto à 20 ans, et il faisait du vélo avec sa prothèse.
D'accord.
Donc, il était force d'exemplarité. Il s'appelait Jean-Pierre Franceschi. C'était un orthopédiste chirurgien très, très réputé à Marseille. Et il m'a donné le plus beau des conseils, parce que je faisais du vélo, je faisais du VTT quand j'étais planchiste. J'ai eu un vélo quand j'avais 10 ans, que j'avais appelé Fan la bise. Qui était un vélo de course que j'adorais, vert, motobécane, et avec qui j'étais très indépendante. Et là, j'ai redécouvert le vélo, voilà.
Moi, c'est bizarre parce que quand j'étais opéré du ménisque, on m'a pas dit cette histoire du vélo, mais la sidération, par contre, oui, ça, c'est un truc que j'ai bien connu.
Ah, c'est incroyable.
Ouais. Mais c'est vrai que c'est un conseil intéressant hein, d'avoir ça. Et donc, 2004, ouais. Triathlon comme ça, jusqu'à, enfin, il me semble avoir vu, il y a des Ironman, hein.
J'ai fait un full ouais. Nice en 2016
ouais.
et depuis je fais que c'est quand même des bonnes distances, mais des 70.3, c'est-à-dire la moitié d'un Ironman. 2 km de natation, 90 de vélo et 21 de course à pied.
C'est une question de quoi? C'est justement de préserver? C'est une question de temps d'entraînement, d'emploi du temps? C'est quoi?
C'est tout simplement, oui, une question d'engagement, de temps. Parce que pour faire un triathlon 70.3, on dit 70.3 parce que c'est le nombre de miles total, 70 oui. Miles 3. D'accord? Mais pour faire un 70.3 en s'entraînant Oui, s'entraînant, hein. Moi je m'entraîne quand même. Mais normalement, ça marche, ça fonctionne. Pour faire un Ironman, bah, c'est long, quoi. L'Ironman, c'est quand même 3,8 km, 100 km et un marathon. Hein. C'est, voilà. Ça s'improvise pas, ça se fait pas au talent, ça se fait pas à je sais pas quoi, ça se fait à l'acharnement. C'est un projet familial, c'est presque un projet professionnel parce que on se retrouve tellement surentraîné qu'on est un peu à cran. Voilà. Donc quand on s'engage dans un Ironman, on le fait pas seul. On en parle à toute sa famille et si tout le monde est d'accord, on y va. J'en ai vu hein, des divorces à la suite d'Ironman. Donc ouais, et c'est pas la même limonade, hein, comme on dit.
Ouais, l'Ironman, j'ai vu aussi sur l'Ultra Trail aussi, où il y a quand même
Oui,
un peu le
oui.
même genre de casse en fait.
Ouais, c'est ça. En plus, sur les ultras, c'est que de la course à pied. Donc l'entraînement, il est hyper traumatisant.
Justement, c'est une question que j'avais parce que j'ai vu les. Donc, je reviens sur cette fameuse vidéo où je voyais des aventures en
Oui.
montagne et tout.
Oui.
Le trail, c'est quelque chose qui vous a tenté ou pas du tout?
J'en ai fait des trails. Oui,
Ouais.
j'aime bien. Oui, j'en ai fait du côté de Forcalquier. Oui, je peux courir. Mais j'ai jamais été tentée, par exemple, comme par la Diagonale des Fous, etc. Par tout ce qui est, en fait, les trails avec de l'autonomie, de la nuit en montagne, une prise de risque quand même qui me paraît risquée. Risquée. Vous voyez, voilà. Et puis comme Tanguy, mon mari n'est pas plus chaud que ça. Comme on fait les choses ensemble. Non, mais
Ouais.
voilà, comme on fait les choses ensemble. Moi, ça m'aurait amusé. Peut-être j'en ferai un jour, hein, parce que c'est pas fini la vie. Mais j'aime bien, voilà, faire un 21, peut-être un 30. Mais pour l'instant, j'ai pas été tentée par plus. Puis il faudrait que je sois, peut-être que je perde 7 ou 8 kilos, que voilà, ça me demanderait trop de choses, trop d'efforts entre guillemets, parce que le poids est l'ennemi du sportif. Mais être trop affûté, on en pourrait en paraître malade aussi. Donc voilà, il faut faire des compromis.
Oui,
La vie n'est pas que sport,
ouais,
oui.
c'est un sujet dont on a souvent parlé d'ailleurs, le surentraînement. J'ai eu beaucoup d'invités, féminines comme masculines, qui étaient tombées dans le surentraînement. Et
Oui.
justement, on parlait de ces sujets-là. Est-ce que c'est quelque chose, finalement, en disant, là, je suis au bon niveau d'équilibre? C'est-à-dire vraiment, tout à l'heure, parce
Oui.
que c'est important cette notion d'équilibre, lié entre la famille, le travail, le sport et tout, quoi.
Ah, mais c'est pas important, c'est vital. Pour moi, la vie, c'est une forme d'équilibre. C'est comme un funambule, un eyeliner, slackline, qui fait des choix. Parce que il y a le choix professionnel, donc d'aller toujours plus loin, voire plus. Mais avoir plus pour faire quoi? Hein? Bon voilà, pour avoir du temps quand même pour le faire. Ce plus, on va pas attendre d'avoir 80 ans pour tout faire. Et on sera plus en forme. Donc voilà, la vie familiale, elle est importante aussi à préserver pour moi, c'est important. J'ai la chance d'avoir mon mari depuis toujours qui me supporte, voilà. Et je fais des choix aussi pour passer du temps avec lui, avec ma fille. Et le sport, alors fait partie un peu de mon travail quand même. C'est ce qu'on disait tout à
Ouais.
l'heure, c'est que moi, c'est un peu ma marque de fabrique. Nathalie, c'est la sportive. Bon, c'est pas faux, mais ça prend du temps. Il faut le rester, ça prend du temps. Mais effectivement, je veux pas basculer dans cette espèce d'excès qui frise l'addiction.
Ouais.
Moi, je suis pas bigorexique, hein.
Mais ce qui est intéressant, c'est justement, c'est Nathalie, c'est le sport, la santé. Enfin, il y a vraiment ce
Oui,
côté parce qu'il y a le côté
le
compétition,
plaisir.
il y a la santé et le
Le
plaisir.
plaisir. Oui. Ah, mais c'est évident. En fait, c'est rigolo parce que j'ai un jour été interviewée par Maryse Evangépé, sportive, qui m'a dit, mais en fait, la grande différence entre toi et moi, c'est que moi, j'étais sauteuse en hauteur et toi, t'es sportive. Et c'est vrai, parce qu'en fait, moi, je faisais déjà beaucoup de sport quand j'étais gamine. Je suivais mon père un peu partout. J'ai fait du judo, du volley, beaucoup de natation, du tennis. J'allais courir, j'adorais tout ça, sans esprit de réelle compétition. Juste parce que j'adore, ça, voilà, j'adore l'état dans lequel le sport me met, ce que ça me procure, cette espèce de jouissance, de moments connectés à la nature, à l'eau, bon, aux autres, le partage. Et finalement, c'est quand je suis arrivée à faire de la planche à voile assez tardivement, et que j'ai rencontré mon mari, qui lui était escrimeur, champion de France, alors, hein, c'était la compète. Mmh. Et lui, il m'a mis dans cet esprit compétition. Mais j'en suis ressortie avec toujours mon amour du sport, cette espèce de quand même d'envie de performer, mais finalement, je suis mon meilleur, comment dirais-je, pas ennemi, mais
adversaire, compétiteur.
Je me bats, voilà, adversaire. Mais toujours ce sport, plaisir et santé. Santé. Je l'ai senti de façon très intuitive depuis toujours. Et là, maintenant, on est au cœur du problème. Hein, le sport santé, la sédentarité, voilà. Mais moi, c'est ma vie depuis toujours.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le message, là, il devient de plus en plus fort. Surtout que j'ai vu sur LinkedIn, vous avez partagé. Alors, je mettrai les liens sur LinkedIn, les messages du médecin dont j'ai perdu le nom. Mais,
Claire Mounier, ouais. Mouillet, machin, agir pour le cœur des femmes.
Ouais.
Ah, bah, c'est la première cause de mortalité chez les femmes, les maladies cardiovasculaires, l'AVC. Enfin, c'est un truc de dingue. Qui l'eût cru. Donc, et quand on sait qu'en plus, faire une demi-heure, mais je ne dis même pas de sport parce que le sport ça fait peur aux gens.
Ouais.
Une demi-heure, par exemple, de marche rapide, activité physique juste par jour, ça réduirait, mais alors des maladies, mais nombreuses. Il n'y a pas que les maladies cardiovasculaires. On sait même que ça permettrait aux enfants d'être plus efficaces à l'école, de connecter leurs neurones. Mais je ne comprends même pas pourquoi on ne leur fait pas faire une demi-heure d'activité physique quand ils arrivent à l'école le matin.
Mm.
Mais franchement, nous, on avait les cours d'école. Enfin, moi, j'arrêtais pas de me dépenser quand j'étais gamine. Je faisais du vélo, je faisais du foot, enfin, tout ça. Puis les gamins, mais comme moi, hein, d'ailleurs, avec nos téléphones, on est là, on est plus facilement sédentaire. Alors que, enfin, on marche sur la tête, on mange moins bien, on mange gras, on mange transformé, rien ne va plus.
On avait fait un épisode avec le docteur François Carré, justement, quand on avait parlé de ce sujet-là,
oui,
et qu'il avait dit que, donc, dans Sport Nutrition, on avait parlé, justement, il avait confirmé, hein, que l'histoire qu'un enfant à qui on le fait marcher un quart d'heure, il apprend sa récitation beaucoup plus vite que celui qui ne marche pas du tout. Mais on faisait le constat aussi que finalement, l'automobile aussi, la voiture a pris beaucoup de place. Moi, quand j'étais gamin, j'allais à l'école, à pied, un petit peu en vélo.
Aussi. Parfois en bus.
Ouais.
Mais voilà. Mais pareil. En fait, on a amélioré la qualité de vie, entre guillemets, des gens, leur confort, mais on a dégradé leur qualité de vie, hygiène, santé, par le même process. On leur a mis des escalators, des tapis roulants, des ascenseurs, des voitures, de tout. Les gamins, on les voit, ils sont en poussette, ils marchent même plus, jusqu'à je sais pas quel âge. Mais c'est vrai, parce qu'on veut gagner du... En fait, pourquoi tout ça? Parce qu'on veut aller plus vite. Plus vite. Or, c'est tout le contraire de ce que prônent les gens qui sont dans la slow attitude ou la décroissance. Voilà. Moi, je suis pas une décroissante parce qu'on peut pas considérer que je ralentis le rythme trop. Mais en réalité, chez moi, je fais tout à vélo.
Ouais.
J'ai décidé de me dire, bah, si ça prend plus de temps, c'est pas grave. On n'est pas à 5 minutes, quoi. Enfin, une pression pour remplir en 24 heures une journée deux ou trois fois plus que ce qu'on faisait avant. Avec les mails, avec les moyens de transport, avec tout ce que j'ai cité avant. Voilà. Mais on est en train de faire une génération de gens sédentaires, en burn-out. Je suis pas sûre qu'on soit tous, qu'on en sorte vainqueurs, non?
Oui, et surtout qu'en plus, quand on regarde la fameuse demi-heure de marche, enfin, qui serait la marche rapide, hein, dans une journée, elle représente un pourcentage de la journée qui est tellement faible. J'ai fait un calcul l'autre jour, la semaine dernière, j'ai fait 10 heures de sport, grosso modo, et j'ai dit, ça fait que 6% de ma semaine. J'ai regardé ce truc-là, j'ai dit, c'est tellement faible, en fait. Alors que le chiffre, il paraît gros, mais en fait, c'est faible. Donc, la demi-heure dans une journée, elle représente pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'on prend pas le temps de la faire.
C'est 6% de votre semaine qui vont impacter de façon positive le reste de la semaine, la qualité de votre sommeil, la qualité de votre digestion, la qualité de votre réflexion, de votre bien-être, la sérotonine, les endorphines, la dopamine. Donc c'est finalement 6% qui compte quadruple, non ?
Mais je suis entièrement d'accord, et c'est même pour ça que maintenant je fais mes coachings et toutes les réunions je les fais en marchant. Donc ce qui fait que j'ai parlé pendant une heure et demie à une personne en marchant, en me baladant autour. Je suis rentré, j'ai fait un bon chemin quand même, hein, presque 9,5 km. Mais en fait, c'est vrai qu'en plus il y a des idées en plus qui viennent, on a une meilleure concentration, ah, on prend le soleil. On a vraiment que des bénéfices à bouger plus. Moi, je suis pas très fan des gens qui ont des tapis à l'intérieur sous leur bureau là où ils marchent sur un tapis tout en tapant des mails, parce que je trouve quand même qu'il manque la luminosité. Or, c'est pas vous qui habitez dans le sud de la France que je veux dire le contraire.
Ah, moi, j'ai choisi la luminothérapie parce que j'ai quand même grandi à Orléans. Je suis parisienne, mais je fais comme vous, je me lève. Je pense que les gens, quand ils téléphonent dans un bureau, ils devraient se lever régulièrement. J'ai une anecdote assez marrante par rapport justement à la sédentarité. Quand j'ai fait l'Ironman de Nice, j'ai eu des problèmes gastriques terribles en course à pied, donc ça a été un peu long. Et quand je me suis arrêtée à la fin, donc j'ai mis je crois 14 heures. Enfin bon. Et le soir, il y avait un truc ouvert, c'était un McDo, donc je me suis arrêtée là et je me suis assise. Et au bout d'une demi-heure, ma montre, elle vibre et elle me dit, il est temps de se bouger. Je me dis, toi, je vais te jeter, c'est pas possible. Et en fait, la montre, elle considérait que la sédentarité, c'est pas le sport que tu as fait dans la journée, c'est le temps que tu restes assis, qui est trop long. Et ça, je trouve que c'est une anecdote extrêmement importante. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu fais du sport qu'il faut rester assis ou avoir la stratégie canapé le reste du temps. C'est très mauvais de rester assis. On n'est pas des bipèdes, on n'est pas des cupèdes, quoi. Enfin, voilà.
Mais on l'avait dit en fait dans des rubriques du podcast, on en avait parlé parce qu'il y a une chercheuse française d'ailleurs qui avait fait des études en disant qu'il faudrait qu'on se lève toutes les demi-heures pour marcher 5-6 minutes, 5-10 minutes, ce qu'elle appelle du cracking en fait.
Même presque plus souvent d'ailleurs, moi je dirais, mais bon.
Ouais, ce serait quoi la recommandation alors?
Moi je pense que dès qu'on peut, on se met debout et on se rassoit pour que les fonctions vitales se remettent en route. Parce que quand on est assis, on bloque la circulation quand même. On bloque tout, quoi. On est assis, on est tassé par rapport à nos viscères, par rapport au flux sanguin, au flux nerveux, à tout, quoi. Donc, j'aime bien, moi, l'idée de ces bureaux évolutifs qui permettent d'être debout, assis ils sont pas mal, ces bureaux-là.
Et ben, je vais vous faire une confidence. C'est que là, tout de suite, j'enregistre un bureau assis debout et je suis en position debout. Comme tous les épisodes de podcast depuis maintenant, début de l'année, je les enregistre tous comme ça et j'ai vu le changement parce que moi, j'avais des problèmes de sciatique, de hernie et tout. J'ai vu tous les changements qui sont assez incroyables. Donc, je ne peux que valider cette position, en tout cas, qui est vraiment beaucoup plus... Enfin, qui, moi, me va bien, en tout cas, qui me correspond bien. Je pourrais pas finir cet épisode quand même sans parler un petit peu de la partie alimentation, parce qu'on en a parlé hein, sur l'histoire. Vous avez des règles d'alimentation, des grands principes, un truc comme ça
Alors déjà, j'essaie de ne pas manger de produits transformés. C'est déjà le principe de base. J'essaie d'être bio, ce qui est très compliqué hein, quand on est en tournage et au restaurant. Et après, alors j'ai un mari qui aime bien tenter tous les régimes, donc je le regarde faire, on se marre bien. Enfin, il a tout fait, donc moi je le suis pas toujours parce que parfois ça me paraît un peu compliqué. On fait régulièrement des jeûnes du soir. D'ailleurs, je dors beaucoup mieux si j'ai ou pas ou peu mangé, et très mal si j'ai trop mangé. J'ai fortement réduit ma consommation de viande. Quand je dis fortement, c'est si je mange de la viande une fois par semaine, c'est déjà beaucoup. Voilà. Et pour le reste, beaucoup de légumes. Moi, je suis pas très sucre, donc je suis plus. J'aime le fromage, hélas. Donc, en vieillissant, il faut faire quand même plus attention, hein, parce qu'on a le métabolisme de base qui change. On stocke plus vite, on perd moins vite. Donc, faut faire gaffe. Il faut se dépenser, ce que je fais, mais il faut pas manger trop. En règle générale, je pense qu'on mange trop.
Ouais.
Tous. Beaucoup trop. Je suis pas un ayatollah de la bouffe. Hein. Je pense qu'il faut essayer de faire comme on sent. Il y a des périodes, je sais pas si vous avez remarqué, il y a des périodes où on a faim. On mange. Et des périodes où on n'a plus faim du tout. Alors pourquoi se faire violence quand on n'a pas faim pour manger? On le fait pas, ça. On dit pas, il faut absolument que je mange, j'ai pas faim, c'est pas bien, t'as pas faim, mange. Alors que le contraire, on le fait régulièrement. Donc, il faut quand même s'écouter un tout petit peu. J'ai pas dit qu'il fallait se le relever à 22h pour se manger le pot de Häagen-Dazs. Mais il faut s'écouter un petit peu parce qu'on a des variables quand même. On n'est pas des robots. Donc, on a des petites périodes où on a besoin d'un peu plus manger, d'autres non. Des périodes de notre vie. Les hormonales pour les femmes. Alors là, bon, on est très très réglé par nos hormones, donc voilà. Mais sans pour autant trop abondance, pour parler de façon livresque. Ouais. J'aime bien ce mot, l'abondance. L'abondance. Un joli mot.
C'est une belle manière de conclure l'épisode. J'ai quand même une dernière question qui m'a été posée. Oui. Est-ce que vous avez des défis, des choses comme ça parce que bon, on a parlé de l'entraînement. Ouais. Moi, j'ai vu qu'il y avait des stages, des choses comme ça. Il y a un défi dans l'année, ou un truc que vous. Alors peut-être des cette année, mais un truc que vous rêvez de faire en fait, un défi sportif, oui.
Je me suis déjà inscrite à 3 triathlons cette année. Je vais faire un triathlon Lanzarote là bientôt. Mmh. C'est des défis quand même, hein, parce que ouais. Les 70.3, bon, c'est bien beau de s'inscrire, mais une fois que tu démarres la course à pied, tu te demandes pourquoi tu t'étais inscrite. Tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois j'y retourne, hein? Et puis là, j'ai une nouvelle émission dans laquelle chaque fois c'est un défi, puisque vas-y, saute en parachute, vas-y, plonge d'un truc. Maintenant, là, la prochaine, c'est du slackline avec un champion de highline. Moi qui n'aime pas du tout ce qui est en altitude, en équilibre, ça, c'est des sacrés défis que je me fixe. Et à chaque fois, je me dis, ou je dis au réalisateur, Nicolas, je dis, mais tu me feras vraiment penser, tu me rappelleras la prochaine fois à choisir un sport beaucoup plus simple, s'il te plaît. Merci. Mais en même temps, ça me fait marrer de aujourd'hui faire enfin cette émission qui était l'émission dont j'aurais pu rêver depuis toujours. Voilà. Donc, pour répondre plus simplement, j'ai pas vraiment de rêve dans ma vie. Non. J'essaye juste de faire en sorte que chaque fois que je fais quelque chose, ce soit un truc qui m'éclate. Voilà. Donc que ce soit un super défi, un truc un peu voilà, juste une course à pied de 5 km. Finalement, plutôt la rencontre avec les gens avec qui je vais partager ça qui est le plus incroyable à chaque fois. Parce que je rencontre des champions là dans leur domaine, je trouve qu'ils sont certains, je me dis mais comment ils sont faits dans leur tête pour aimer. Par exemple, en snowkite, le mec il vole, il va jusqu'à 3000 avec son snowkite et il descend en volant. Mais attends, mais d'où tu viens toi? D'une autre planète? C'est pas possible. C'est rigolo, non? Ça, ouais. Ces gens-là.
Mais peut-être que lui-même, en voyant les images de la Nathalie Simon jeune sur son funboard qui faisait je ne sais pas quoi, se poserait la même question en fait.
Ouais, mais il n'y a pas que des jeunes, hein. Ouais. Attention, il y a des vieux. Et ce qui est plutôt rassurant, ce qui veut dire que le truc est quand même pas si dangereux que ça, s'il y a des vieux. Non, je blague, parce qu'on dit toujours un bon guide est un vieux guide. Vous connaissez cette phrase.
C'est vrai.
Voilà, donc pas de rêve, que de l'action, que du concret, que la vie, quoi.
Ouais. Et j'ai pas demandé si vous aviez si vous aviez envisagé, parce qu'on a dit on vit au jour le jour, d'en faire jusqu'au bout. Mais est-ce qu'une vie sans sport, c'est imaginable?
Non.
Ouais.
Enfin, si jamais je me retrouvais immobilisée, bon, ça dépend à quel degré hein, d'immobilisation, mais je probablement trouverais-je quelque chose d'alternatif dans lequel j'ai autant de passion. J'adore lire, j'aime cuisiner, je ferais peut-être d'autres choses, des voyages, des tas de trucs que je ferais probablement. Ça m'est arrivé hein, là récemment j'ai eu une intervention donc j'ai pas pu faire de sport pendant un mois et demi. J'ai fait plein de trucs mais c'était un mois et demi, je savais que ça allait prendre après. Donc j'ai fait plein de trucs, j'ai peint sur des cailloux, j'ai cuisiné des trucs improbables, j'ai lu, j'ai écouté des podcasts. Bon voilà, mais aujourd'hui là je te réponds non. Mais je pense qu'en réalité, j'arriverai à trouver autre chose qui m'attire. Voilà, moi, je suis quelqu'un de curieux. J'aime beaucoup cette phrase. C'est Joël de René qui disait ça. un modèle pour moi, un type incroyable. Il faudrait que vous l'ayez en podcast, puisqu'il est, il est incroyable, Joël de René. Il dit vieillir, oui, devenir vieux, non.
C'est magnifique. Alors là, moi, je vais conclure là-dessus, en tout cas, hein, parce que c'est une conclusion parfaite. En tout cas, merci beaucoup. Bon, je note pour la proposition pour Joël de René. Si vous avez un
il
petit contact,
incroyable.
Je suis preneur.
Ah oh bah il est sur sur LinkedIn. Hein.
Bon ben je vais aller taper à la porte. En tout cas en tant que recommandation. Alors merci beaucoup en tout cas pour le temps passé. Je mettrai les liens. Alors le mieux pour vous suivre parce que moi j'ai regardé LinkedIn, j'ai vu du Strava, Insta.
Strava. Oui. Bah, Strava c'est les passionnés de sport. Hein. C'est Insta surtout, Insta et Facebook. Insta surtout.
Et ben, je mettrai tous les liens en tout cas pour vous suivre.
Merci.
C'était un plaisir de pouvoir échanger avec
Merci
vous.
Merci Bertrand.
Je mettrai bien sûr en tout cas tous les liens pour vous suivre. Merci beaucoup pour le temps passé avec moi et avec nous. Et je vous souhaite une belle saison. Hein, et ces beaux triathlons, des beaux projets aussi pour la suite.
Voilà.
Et puis une émission. On a hâte de voir après quels sont les autres défis d'émission que vous voulez avoir en tout cas. Je sais, et dans l'Amsterdam Running Club, on a beaucoup de gens qui vous suivent avec qui adorent ce que vous faites. Et donc, ils étaient très heureux aussi d'apprendre que vous étiez invité. Et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Eh bien, je vous embrasse tous autant que vous êtes.
Bonjour Laure.
Salut Bertrand.
Comment vas-tu?
Bah écoute, je vais très bien et toi?
Eh bien écoute, ça va très bien. Moi, je suis toujours content. On démarre la journée comme ça par un petit, comment on va appeler ça? Un petit débrief? Un rebond?
Ouais, un petit rebond. Ouais, c'est mignon, un petit débrief. C'est mignon aussi, ouais. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est bizarre de se retrouver deux fois dans la semaine. En fait, quand on aime, on ne compte plus, quoi, hein, je crois. Hein.
Arrête, arrête, arrête. Sinon, on va en faire tout le temps et tout après.
Ah ouais, ça va être compliqué, ouais. Ouais. Ça va être compliqué.
Tu crois qu'ils vont nous supporter s'ils nous entendaient tous les jours? Moi, j'en sais rien, en fait, j'en sais rien. Mais bon, allez, aujourd'hui, on a décidé qu'on allait faire court, parce que c'est un rebond sur l'épisode que j'avais enregistré avec Nathalie Simon.
Ouais, on n'est pas bavard. Hein. Ouais. Bon, ça suffit. Hein.
On n'est pas du tout bavard. Je te l'ai envoyé la semaine dernière pour que tu l'écoutes. On en a discuté, on a échangé dessus et tout. On a décidé qu'on allait faire un rebond de se focaliser en fait sur certaines choses qu'elle a pu dire et de comment nous on peut les transcrire et qu'est-ce qu'on peut en garder nous pour devenir des champions du monde de notre monde, championnes et des vieillards galopants et bien vieillir. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé déjà de ce qu'elle a dit?
Alors moi, j'ai adoré cet épisode. Vraiment, je trouve que c'est une femme inspirante. Déjà, c'était un personnage que j'aimais beaucoup, pour plein de raisons, bien sûr pour son parcours, en tant qu'être humain, mais surtout en tant que femme. Clairement, c'est une femme qui a réussi à faire, pas presque tout, mais elle incarne, je trouve quand même, la vraie réussite de la femme, à savoir de concilier beaucoup de choses. Elle a une vie personnelle, parce que j'ai envie de commencer sur ce point, parce que c'est important pour moi, le personnel, qui est hyper stable, hyper épanoui, on sent, hein, avec sa famille, elle parle beaucoup de son mari Tanguy, elle parle de sa fille, on sent qu'elle a vraiment, elle est hyper épanouie personnellement, professionnellement, ben, elle a réussi à concilier, en fait, une carrière de haut niveau avec ensuite, on pourrait appeler ça une très belle reconversion professionnelle, hein, ce qu'elle a fait. Je crois qu'elle a des chambres d'hôtes, il me semble, elle a un truc comme ça. Je m'étais un petit peu renseignée. Aujourd'hui, elle fait des choses, elle continue de s'entraîner. Alors, on peut pas appeler ça du professionnel, mais elle continue de s'entraîner personnellement. On sent vraiment qu'il y a un équilibre de vie. On sent vraiment que il y a aussi une continuité de vie, et c'est ce qu'on a voulu valoriser dans la suite de ce rebond tous les deux, de prendre un petit peu. Alors, non pas entre guillemets ça comme un exemple, parce qu'on a tous des chemins de vie, des modes de vie singuliers, voilà, et je pense qu'il faut pas se donner, c'est un message qu'on véhicule souvent, il faut pas se prendre des gens pour exemple, parce que sinon on va toujours souffrir de complexes, de comparaisons qui sont négatives et qui sont pas forcément porteuses, mais par contre effectivement, cette idée de se dire, on va essayer d'analyser un petit peu le parcours de Nathalie Simon. Et nous, ce qui nous a vraiment marqué tous les deux, c'est cette idée que dans sa vie, elle a eu deux grands objectifs. Elle a fait deux formes de pratiques sportives. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de prendre un petit peu de recul et de faire une toute petite analyse sur justement ces deux périodes. Et puis essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui les caractérise l'une et l'autre, quelle est la cohérence de l'une vers l'autre. Et puis, on va voir que bah, elle a réussi vraiment, à l'échelle de sa vie, à concilier, d'un point de vue temporel, des choses qui ne sont pas conciliables sur le même temps. Alors, je vais arrêter d'être mystérieuse et je vais peut-être tout de suite rentrer dans ce qu'on veut dire, hein, Bertrand. Nous, ce qui nous a beaucoup marqué dans son parcours, c'est le fait que Nathalie Simon, elle a d'abord eu une carrière de haut niveau, donc axée sur de la performance, elle le décrit bien. Hein. Puis, une pratique sportive axée sur le santé, les loisirs, le bien-être. Et donc, on voit bien que elle est très lucide sur le fait qu'on ne pratique pas on pratique du sport vis-à-vis d'un objectif. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose aussi qui nous permet de redonner un petit peu de recul sur toutes les minutes perf. On en a un petit peu parlé dans l'épisode qui est sorti lundi sur le fait que, ben justement, effectivement, il fallait toujours remettre dans un contexte et vis-à-vis d'un objectif. Mais aujourd'hui, on va aller un tout petit peu plus loin là-dessus en essayant de bien comprendre ce qui caractérise une pratique de performance et ce qui caractérise une pratique de santé ou de plaisir ou d'entretien de soi. Pour bien comprendre qu'en fait, ce sont deux objectifs qui sont très différents et surtout qui sont incompatibles. On va tout de suite le dire, on ne peut pas tout à la fois poursuivre un objectif de performance avec un objectif de plaisir, de santé, d'entretien de soi. Alors, c'est compatible, c'est pas compatible de manière absolue. Ça veut dire que on peut tout à fait envisager de faire une sorte de truc un peu hybride, rechercher de la performance tout en ayant du plaisir, mais dans ce cas-là, on ne recherche pas la meilleure performance. Mmh. C'est bien ça que je veux signifier, c'est que si on veut donner le meilleur de soi, obtenir le meilleur de soi, donc viser la meilleure performance, exploiter le meilleur de son potentiel à un instant donné, alors les moyens mis en œuvre pour y arriver sont des moyens qui sont orientés vers la performance. Et ce n'est pas conciliable avec une logique santé, avec une logique de plaisir et avec une logique d'entretien de soi. Donc ça, c'est important à comprendre. Mais ça, dans ce que je dis aussi en creux, on comprend qu'on peut se donner des petits repères de performance, des petits objectifs de performance, tout en ayant du plaisir, en gardant du plaisir, en gardant de... Mais à ce moment-là, si on est dans cette logique un peu hybride, eh bien, on ne maximisera pas notre potentiel et on n'arrivera pas, entre guillemets, à notre record personnel, à nos meilleures performances et à l'exploitation de nos ressources de manière optimale. Voilà, c'est un peu comme ça que je veux contextualiser les choses aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis claire, tu en penses quoi par rapport à ce qu'on s'était dit tous les deux ?
Et puis, c'est vraiment intéressant aussi parce que, en fait, quand elle parle du fait qu'elle fait des half Ironman et qu'elle s'en excuserait presque en disant c'est des distances qui ne sont pas les complets, etc., mais qu'elle dit que passer la distance complète, ça devient quelque chose qui sort de son entraînement, qui basculerait trop son équilibre de vie, son équilibre de santé. Parce qu'elle dit, en fait, que l'engagement de temps pour faire un Ironman pour elle, c'est trop important par rapport à son équilibre de vie, son équilibre de santé, sa famille, etc. Et elle dit même qu'elle a vu des divorces à la suite d'Ironman. Et moi, je sais que j'en ai vu aussi sur les ultras. On voit aussi beaucoup de choses comme ça. Et c'est vrai, c'est là où on voit qu'elle est très lucide, en fait, sur sa capacité. Parce que physiquement, elle est probablement capable de faire beaucoup plus de choses qu'elle ne le fait. Mais elle sait aussi que ça lui demanderait certains efforts et certains, on pourrait dire, sacrifices, en tout cas, qu'elle n'a pas envie de faire dans son équilibre de vie, ni dans son équilibre de santé, ni dans le fait que le matin elle se réveille avec le sourire, la pêche, et que c'est pas non plus une contrainte, parce que elle le dit pas, mais je pense qu'il y a aussi une question de dire, quand elle parle d'engagement et de temps, elle sait qu'il y a un moment donné, peut-être que ça pourrait être le trop, le surentraînement. Elle a dit l'Ironman, c'est de le surentraînement. C'est-à-dire
alors,
qu'elle le voit comme ça.
Tu soulèves un point qui est super important, c'est cette idée de que déjà l'objectif en tant que tel, il peut déjà être associé que à de la perf. C'est-à-dire que on peut faire un 10 km sur le mode performance ou plaisir, c'est pas un problème. On peut faire un 10 km en mode marathon pour tous, on va se tester, hop, on va jouer, on va rigoler, etc. Ok, c'est possible. Mais aussi, on peut faire un 10 avec vraiment une prog, un truc hyper sérieux, hyper carré et un plan qui est hyper axé là-dessus. Par contre, ce que tu soulèves et ce qui est vraiment intéressant à souligner, c'est que par exemple l'Ironman ou l'Half Ironman dans une moindre mesure, mais l'Ironman ou un ultra ou ce genre de choses, on voit bien que d'emblée, eh ben, si Nathalie Simon, et je pense que là-dessus je partage son avis, hein, ne le fait pas pour plein de raisons, c'est que d'emblée ce sont des objectifs qui sont associés uniquement à de la performance. Ça c'est important c'est déjà important à dire. Ça veut dire que le choix de l'objectif que l'on se fixe, il va déjà déterminer, en fait, entre guillemets, enfin, le choix du, on va dire, de l'objectif dans la nature de l'effort que l'on veut faire, il va déjà déterminer, en fait, l'objectif macro qu'on se fixe. Est-ce qu'on est dans une logique de perf ou est-ce qu'on est dans une logique de santé? Et donc, ça, c'est important. Et tu as raison. Alors, moi, je le dis souvent, hein, ça, mais je pense que l'Ironman, c'est... alors, on peut parler de l'Ironman, on peut parler des ultras, même si je pense que... Alors, il faudrait parler d'un temps d'effort, hein, parce que je pense que c'est plus important et plus pertinent de parler d'un temps d'effort, mais globalement, quand on est sur des efforts, les de 10 à 15 heures, il faut quand même se dire que les contraintes physiologiques et biomécaniques qui pèsent sur nous, elles sont énormes. Et la capacité du corps à récupérer, c'est vraiment très long et très important. On peut déjà commencer à voir ça sur des efforts, on va dire, de 6-7 heures, dans lesquelles il y a beaucoup d'intensité aussi. Moi, je l'ai vécu sur un trail, c'était 60 km, c'est la plus grosse distance que j'ai faite. Et j'avais mis de l'intensité parce que je jouais la gagne. Donc forcément, il fallait à un moment donné, sur la fin, tenir l'intensité. Et en fait, je me souviens avoir mis, mais vraiment précisément, un mois à retrouver des nuits normales. C'est-à-dire que pendant un mois, j'avais toutes les nuits mal partout. Je dormais sous l'oliprane parce que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à récupérer. Et puis après, j'ai mis 2 mois à vraiment récupérer d'un point de vue juste pouvoir faire un footing à peu près normal sans trop de courbatures. Donc, on voit bien qu'on commence à comprendre par tous ces éléments que l'objectif de performance, il y a une telle charge en termes d'intensité, de kilométrage, d'investissement au total, que derrière, ça rend impossible le fait de prendre beaucoup de plaisir, et parce que on est toujours dans cette logique de récupérer, de maximiser la perf, etc. Et donc ça me paraît important d'emblée de faire passer le message que quand on choisit un objectif de course, la nature de la course, le moment de la course et tout, c'est extrêmement important à faire dans le cadre d'une préparation. Moi, c'est des choses que je demande toujours aux personnes que j'encadre, d'identifier des objectifs à plus ou moins long terme. Alors, très souvent, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, c'est intéressant, ça rejoint ce qu'on dit. Les personnes, finalement, se disent, je vais d'abord faire un 5, puis un 10, puis un 20, puis un marathon. La distance augmente, mais on voit bien que là, le marathon, si on prend le marathon comme une distance avec un temps de course, on va dire comme c'est en France moyen, je crois que c'est entre 4h et 4h30 à peu près, les marathons, ils sont courus en moyenne dans ces allures-là. On voit bien qu'on n'est pas du tout sur les efforts dont on vient de parler. On est sur la moitié du temps d'effort dont on vient de parler. Donc, on voit bien que les conséquences, elles sont quand même beaucoup moins importantes sur l'organisme. On va récupérer plus facilement d'un marathon en 4h, 4h30, 5h que des efforts dont on vient de parler. Donc, on voit bien que presque le marathon, attention, je suis pas du tout, et c'est pas, en plus, toi, tu me connais, Bertrand, là-dessus, tu sais très bien.
Ne minimise pas le marathon, s'il te plaît, quand même. Voilà.
Voilà, exactement. Tu me connais, je suis pas du genre à minimiser la distance parce que je la connais, je l'ai vécu, je la pratique et je sais ce que c'est. Mais on voit bien que le marathon peut être envisagé dans une logique, entre guillemets, dite de plaisir.
Oui.
C'est-à-dire que, en tant que tel, je n'ai pas à faire tous les sacrifices. Je n'ai pas à tout maximiser au service de... Parce qu'en fait, il y a toujours cette histoire de est-ce que déjà je vais réaliser le défi et est-ce que je vais pouvoir faire un temps dans ce défi. C'est ça l'idée, en fait. Et c'est un peu ça ce qui va aussi structurer le truc. C'est que se faire un Ironman, c'est rare les personnes qui prennent le départ d'un Ironman et qui disent « Oh, moi, j'ai envie de le faire en 10 heures, en 12 heures. » C'est les très bons qui disent ça. La plupart des gens, ils te disent « Oh, j'ai envie de le finir. » Donc, on voit bien que la nature de l'épreuve en tant que telle, c'est déjà un défi. Donc, c'est déjà ça, la performance. En fait, c'est ça que je veux exprimer depuis tout à l'heure. Voilà. Maintenant, là où je veux en venir tous les deux, c'est que trop souvent, on confond objectif de performance et objectif de santé dans le sens où on aurait envie toujours de courir tout le temps, de prendre du plaisir, etc. Tu l'as vécu, je l'ai vécu, c'est incompatible. C'est-à-dire que quand on se met dans un plan, en fait, ce plan, il est composé, on en a déjà parlé, quand on se met dans une prépa, un des facteurs hyper importants de la performance, c'est la récupération. Et donc, on voit bien que puisque la récupération est un facteur de performance, le fait de ne pas courir un ou plusieurs jours dans la semaine, c'est nécessaire à la perf. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui adore courir tous les jours, quelqu'un pour qui la course est un moyen de se défouler, de s'aérer. Alors là, vous ne voyez pas, mais Bertrand fait comme si personne ne le regardait.
Je me cache, je suis en train de me cacher, de me planquer sous mon bureau debout et en train d'essayer de monter, tu vois, pour me cacher encore plus haut.
Comme si on ne parlait pas de lui.
Voilà, ouais, comme ça. Si on ne parlait pas de moi. Donc, dis donc, moi je suis là.
Mais moi, je m'y retrouve très bien. Moi, je me retrouve très bien quand je ne peux pas courir une journée. Je suis bougon, d'ailleurs. Tu l'as vu il n'y a pas si longtemps. C'est comme si la Terre s'effondrait. Et voilà, parce que il me manque un truc nécessaire à mon équilibre. Donc, je me reconnais complètement parfaitement là-dedans. Après, si la course est pour vous un moyen de vous détendre, de vous faire plaisir, de vous aérer, simplement donc, dans une logique de plaisir immédiat, Mais aussi, très souvent, quand on est dans cette logique de plaisir immédiat, on le fait parce qu'il y a des éléments de motivation qui sont extrinsèques à nous, à savoir la santé. Alors, c'est important de se dire que, bah oui, il faut rester dans cette logique de santé. Et donc, il faut rester dans cette logique de plaisir et d'éléments au quotidien. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses jusque-là, Bertrand, mais je trouve que déjà, on a pas mal structuré le truc.
Non, mais tu as raison sur le fait, parce que moi, je le vis. Je me moquais de moi-même en disant, oui, moi, je cours tous les jours et tout. Je sais qu'en courant tous les jours, comme je le fais, en ayant un truc qui est vraiment orienté plaisir, et je déstructure totalement l'entraînement, mais un coach, un vrai coach, enfin je veux dire du club, il me verrait mon truc, il me dirait mais tu fais n'importe quoi. L'autre jour je racontais, j'ai fait mon 10 à fond là pour Marathon pour tous, en parlant en partie, je l'ai raconté parce que j'ai dit quand même c'est tellement couillon, je me suis dit mais quand même, et puis le lendemain j'ai fait 11 bornes, ce qui normalement n'a aucune logique dans mon histoire, en plus j'avais rajouté du vélo au milieu, mais en fait c'était juste orienté sur plaisir. Et moi, j'ai un indicateur de temps d'effort global dans ma semaine qui montre qu'en fait, à ce moment-là, j'ai moins mal au dos, j'ai moins mal à ma hernie, ma sciatique, etc. Et donc, je regarde pas trop la distance, mais je regarde beaucoup, beaucoup le temps d'effort et le temps que je passe dehors. Donc, forcément, à partir de là, il y a plein de plans où on dit il faut faire, je sais pas, 3 fois 3000. Il y a des jours, les 3 fois 3000, j'aurais pas envie de les suivre. Et pourtant, en même temps, tu vois, moi, je suis tiraillé par ce truc-là. Je te l'ai dit, je dis, ah, j'aimerais bien récupérer ma vitesse. Il y a encore, j'ai une discussion hier soir avec quelqu'un qui me dit, mais pourquoi tu fais pas un plan sur tes trucs, sur des plans, tu pourrais. Et oui, parce que hier, on a fait un 400 mètres. Je dis comme ça, parce que vous l'aurez vu, j'ai fait un test Soconi des carbones. Ils nous ont fait faire une ligne droite de 400 mètres. Et j'ai regardé mon temps à la fin, je dis, il est pas mauvais, en fait, tu vois. C'est juste que je peux pas le répéter. Mais sur le coup, ça m'a donné envie, tu vois, de me dire, enfin, quand même, Bertrand, tu pourras accélérer un peu. Mais je sais en même temps que ça me tournerait vers un objectif qui est plus perf par moment et qu'il y a des trucs que je devrais sacrifier sur mon équilibre et notamment le mélange aussi avec le gravel que j'ai rajouté dedans. Donc, là-dessus, alors, et Nathalie Simon, elle en parle très bien, je crois, de ça.
C'est super intéressant. Donc, ouais, on va rebondir là-dessus sur ce que tu dis et ce que vit Nathalie Simon. On a donné deux objectifs, mais on n'a pas dit ce qui les caractérisait, en fait, et ce qui les structurait. Tu viens de le dire, toi, tu fais pas n'importe quoi. C'est pas ça, l'idée. On fait n'importe quoi, c'est toujours n'importe quoi par rapport à quelque chose. Donc, en fait,
t'es gentille.
Mais non, mais c'est la vérité. Tu fais pas n'importe quoi. Tu fais ce qui te fait plaisir, Bertrand. Mm. Et en fait, en tant que tel, c'est cohérent. C'est pas n'importe quoi puisque c'est ton objectif. Ton objectif, c'est d'être un vieillard galopant, c'est de pratiquer tous les jours, c'est de prendre du plaisir, c'est de t'aérer, etc. En plus, effectivement, cette année, ton objectif entre guillemets de perf, c'est un objectif type gravelman, type long. Alors, il y aura peut-être des petits défis 24 heures ou ce genre de choses. On verra plus tard. Mais globalement, t'es sur une approche assez longue de kilométrage, d'endurance fondamentale. Et en fait, je pense que ça, c'est tout à fait possible de se dire, ok. J'ai un objectif, entre guillemets, comme on disait tout à l'heure, un peu hybride, j'ai un objectif de performance sur le long terme qui est un défi très long. Et donc, plus c'est long, non pas plus c'est bon, mais plus c'est long, plus c'est long, moins les allures vont être élevées. Et donc, moins les allures vont être élevées, plus on va pouvoir passer du temps dans l'activité. Parce qu'en fait, ce qui est fatigant pour notre corps, c'est les intensités. Les intensités, elles sont fatigantes sur le plan physiologique et sur le plan biomécanique. Donc, on voit bien que quand on a un objectif vraiment, je sais pas, ça peut être comme toi le gravelman, ça peut être, en plus le gravelman, la chance que tu as, c'est que t'es sur le vélo, donc t'es porté, donc il y a encore moins de contraintes sur le plan biomécanique, donc on peut augmenter entre guillemets le volume total. Donc ça, c'est pas un problème. Globalement, on voit bien que quand on est sur un objectif de santé, d'entretien de soi, de maintien de ses ressources, on va être davantage sur des allures plutôt lentes, plutôt on va être sur de l'endurance fondamentale, voire de la capacité aérobie. Donc globalement, on va se balader sur des allures à 70-75% de la VMA, on va être proche du seuil aérobie. Et donc, en fait, on va être sur des allures comme ça, assez cool, qui n'ont pas d'impact sur le plan physiologique, puisque on le rappelle, l'impact physiologique qui vient du fait que plus on se rapproche de la VMA, plus on rebascule de manière importante dans la filière anaérobie lactique et donc plus on resécrète de l'acide lactique. Or, c'est vraiment l'acide lactique qui va créer de l'acidose musculaire, qui va créer du déchet métabolique et qu'il va falloir évacuer. Donc, c'est vraiment cet acide lactique qui est, entre guillemets, pour nous, on pourrait pas appeler ça un poison hein, parce qu'on n'en meurt pas, mais c'est vraiment le truc qui fait que la récupération est nécessaire parce que plus on a des déchets métaboliques, plus on va mettre du temps à les éliminer. Et donc, on voit bien que ces déchets métaboliques sur des allures à 70-75%, il y en a quasiment pas. C'est pour ça que quand on est sur un objectif de santé, on peut courir tous les jours. À partir du moment où on court en endurance fondamentale, on court à des allures qui sont lentes et on reste vraiment dans ce qu'on appelle une zone de confort. Voilà. Globalement, ces allures, hein, je le rappelle, c'est des allures à laquelle on peut parler. On peut le fait de, on n'a pas du tout de problème pour respirer. On a vraiment cette possibilité d'accélérer quand on le veut, de dépasser un gars pour lui montrer qu'on est plus fort. Voilà. Ah, mais moi j'adore, je joue. Je suis une vraie joueuse, moi. On peut tout à fait envisager le fait de tenir longtemps. Voilà, c'est vraiment une allure dans laquelle on se fait ultra plaisir. On peut admirer les paysages. On est encore dans la contemplation. On est totalement en synergie avec la nature qui nous entoure. Et donc, on voit bien que ce type d'effort qui est associé vraiment à une pratique santé, qui est associé vraiment à une mobilisation des ressources de type aérobie, endurance fondamentale, n'ont pas de conséquences dans le sens où on récupère assez vite, non seulement d'un point de vue respiratoire, on s'arrête, pouf, on n'est plus essoufflé, et puis ça ne crée pas de courbature, parce que sur le plan mécanique et sur le plan physiologique, il n'y a pas de lésion, il n'y a pas de problème de ce type, quoi. Donc, on voit bien qu'en fait, la contrainte qui pèse sur nous, elle n'est pas importante. Et effectivement, je pense que c'est tout à fait possible. Alors, bien sûr, avec du foncier, hein, je ne dis pas à quelqu'un qui n'a jamais couru qu'il va pouvoir faire un 24 heures en ayant ce type de pratique, mais toi comme moi, le fait que ça fait des années et des années qu'on court tous les jours, que ça fait des années et des années qu'on fait du volume, du kilomètre, qu'on est souvent dehors. Alors après, les gens vont croire qu'on est des hommes des bois, mais voilà, le fait qu'on
s'aère... Moi, je suis un homme des bois. Toi, t'es...
Moi, je suis une femme de la ville. Je suis pas un homme.
Femme de la ville. Toi, t'es pas un homme. Déjà, t'es pas un homme, mais déjà. Moi, je suis l'homme des bois, mais toi, t'es plutôt la femme des parcs et des bords de...
Ça me fait penser au film Un homme heureux avec Catherine Faure et Fabrice Luchini. Bref, c'est l'actualité. Film au cinéma. Voilà, peu importe. Et donc, effectivement, le fait de beaucoup s'entraîner, d'avoir beaucoup de volume, ça permet, pour nous, qui avons vraiment, entre guillemets, une sorte de base, d'envisager des défis de ce type, comme, voilà, moi, demain, je pense que si j'ai envie de faire peut-être pas un gravelman entier, mais un demi-gravelman, bah, entre guillemets, on dit souvent, on a la caisse, on a les réserves, on a le réservoir, hein, c'est ça la capacité, hein, la capacité aérobie, c'est le réservoir pour faire des efforts longs. Moi, j'ai un peu toujours fonctionné comme ça dans ma vie. Et c'est ça qui est important, en fait. C'est-à-dire que cette logique-là, cette logique de santé, elle permet vraiment de créer une base, une sorte de socle, de capacité, hein, j'aime bien ce gros réservoir, et derrière de dire, bah, le jour où je voudrais mettre de la puissance, le jour où je voudrais mettre des intensités, bah, je pourrais y aller, je pourrais augmenter le débit de ma filière. Donc on comprend bien un peu les filières énergétiques à travers ça. Et en fait, aujourd'hui, Nathalie Simon, elle est vraiment dans cette pratique-là, aujourd'hui, cette pratique de plaisir. Elle parle d'ailleurs des allures, hein. Elle explique que elle parle de 5 zones, on va les traduire autrement, hein. Les 5 zones, c'est souvent les zones qui sont dans les montres. Pour moi, ces zones, elles sont artificielles dans le sens où elles ne correspondent pas en fait à des points physiologiques particulier. Moi, j'aime bien parler d'allures lentes, moyennes et rapides parce que, en fait, ce sont des allures que l'on va venir intercaler entre des seuils. Et en fait, les seuils sont physiologiques dans le sens où ils sont caractérisés par des repères très physiologiques, très stables, qui sont les mêmes. C'est-à-dire que Kipchoge, toi ou moi, eh ben, en fait, au seuil anaérobie, on a les mêmes repères, on a les mêmes sensations. Ce qui différencie, c'est la vitesse. Voilà. Mais c'est ça qui est intéressant. Pourquoi c'est intéressant de raisonner avec ces allures et vis-à-vis des seuils? Donc là, on vous renvoie à un épisode, hein, on avait déjà fait un épisode sur les allures. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on progresse tout le temps. Et donc, quand on progresse, on augmente nos vitesses. Il y a aussi autre chose, c'est que l'entraînement joue sur notre fréquence cardiaque, elle module notre fréquence cardiaque. Le surentraînement va aussi avoir des tendances sur la fréquence cardiaque, la privation de sommeil aussi, donc la fatigue. Donc on voit bien que la fréquence cardiaque, c'est une donnée qui est peu fiable parce qu'elle est influencée par beaucoup de facteurs. On sait qu'en vieillissant notre fréquence cardiaque, on a du mal à plus monter dans des intensités, etc. Donc c'est pour ça que travailler avec les zones des montres, elles travaillent avec des fréquences cardiaques. Et c'est pour ça que moi, je pense que c'est non seulement artificiel, parce qu'il n'y a pas de repère physiologique concret, mais surtout, en fait, c'est arbitraire, c'est subjectif, parce que notre fréquence cardiaque, elle fluctue. Et puis aussi, on sait très bien que les montres, elles ne sont pas très très fiables sur la prise de la fréquence cardiaque au poignet, et que uniquement si on a des ceintures, là oui, ok, ça va. Mais c'est pour ça que moi j'aime bien travailler sur ses allures. Donc elle en parle souvent, elle dit qu'elle est en zone 2, et moi je crois que la zone 2 dont elle parle, je pense que c'est la zone proche du seuil aérobie, hein, donc c'est ce qu'on pourrait appeler une allure soit une allure plutôt, on va dire, soutenue à moyenne. Donc en fait ça serait une allure entre 75% et 80-85% de sa VMA, donc ça serait l'allure qui serait entre ces deux seuils, le seuil aérobie et le seuil anaérobie lactique. Bon, du coup ça c'est intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit aussi dans le parcours de Nathalie Simon, c'est que quand elle a été dans une logique de performance, eh bien, elle organisait toute sa vie autour de sa performance. Et elle le disait, hein, même si elle avait envie de faire un truc, eh ben, en fait, elle n'allait pas écouter son envie. Parce qu'à partir du moment où on est dans une logique, où on s'est fixé un objectif et qu'on veut le réaliser, on va tout mettre en œuvre pour y parvenir. Et donc, à ce moment-là, c'est là où, effectivement, les plans d'entraînement vont différer. Parce que si on ne met pas de l'intensité dans des plans, ben c'est toujours cette histoire de on va simplement mobiliser nos ressources, on va pas les développer, parce que le système de contraintes qui va peser sur nous, il va pas être supérieur à notre système de ressources. Mmh. Et donc, ça, c'est vraiment très important de considérer que ben, la performance, c'est tout mettre au service de celle-ci, et donc c'est d'organiser des intensités. Qu'est-ce que tu veux rebondir, toi, Bertrand, avant qu'on fasse le petit lien avec le marathon pour tous, là?
Bah, en fait, je trouve que ce qui était vraiment intéressant, tu vois, c'est vraiment cette histoire de dire que, bah, elle était jeune, elle faisait des abdos à fond le matin, elle savait qu'il fallait qu'elle fasse certains efforts, qu'il fallait vraiment, et c'est vrai que c'est une histoire de sacrifice, hein, comme elle le dit, puis en plus, bon, elle parle de son mari, compète, donc elle avait en plus l'entourage. Qui est très important et tout, où elle le dit, parce qu'elle le dit d'un côté, ça l'a poussée dans un sens, mais de l'autre côté aussi, par rapport à son entourage, elle va aussi mettre certaines limites dans la pratique qu'elle veut avoir. Elle parle bien de cet équilibre, en fait, de funambule qu'elle essaye de trouver. Et il y a un truc qui est vraiment très intéressant aussi que j'ai trouvé, c'est que elle dit bien que ça s'entretient, en fait. C'est-à-dire que elle a l'image de la Nathalie Simon, c'est la sportive, mais que pour rester sportive, en fait, elle en fait qu'elle a une gestion. Alors, on en parle, elle revenait d'un stage de triathlon avec notamment beaucoup de gens qui étaient masters. Hein. J'avais vu les vidéos où il y avait vraiment des gens qui étaient bien plus âgés qu'elle. Et c'est qui montre qu'on peut en faire longtemps. Elle le dit aussi que le sport, elle dit, c'est formidable parce que c'est gratifiant, qu'on peut progresser tout le temps à condition, bah, finalement, de mettre des efforts. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle a été professionnelle qu'elle arrive à faire ce qu'elle fait maintenant, c'est parce qu'en fait elle s'entraîne maintenant qu'elle arrive à pouvoir toujours faire ça alors qu'elle approche bientôt de la soixantaine. Et que moi, quand je regarde son truc, elle me dit ouais, c'était tranquille et tout, je vais pas vite, etc. Elle fait quand même des halves. Elle avance, hein, quand vous la voyez sur le truc, elle met beaucoup de temps dans l'entraînement, etc. Et donc elle est quand même dans cette logique là, en fait, de dire j'ai les efforts, c'est ce qui me permet d'entretenir le plus longtemps possible.
Alors,
mais je dois pas me griller.
Pourquoi elle continue de progresser? Il y a deux raisons. Hein. La première, c'est qu'elle, au départ, elle est sur un sport qui est pas à dominante énergétique. Hein. Elle était vélo-planchiste, donc il y avait des capacités de puissance, des capacités de résistance. Il y avait beaucoup de force aussi, mais c'était pas un sport à dominante énergétique aussi marqué que l'est ce qu'elle fait aujourd'hui, le triathlon. Donc elle continue de progresser pour cette raison. Après, on voit bien que elle joue vraiment sur ce système de contraintes dont on parle souvent. Hein. Elle vient bien moduler la contrainte en essayant de finalement faire en sorte que elle y ait de la contrainte qui pèse sur elle pour lui permettre de progresser, mais en même temps de gérer cette contrainte pour vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de blessure, de risque de blessure et de contraintes trop importantes. Quelque part, donc on avait évoqué l'idée que tous les deux, dans la préparation de cet épisode, de faire le lien avec la question des défis que le Marathon pour tous donne. Ça peut être intéressant, moi je trouve, de faire le lien. L'idée, c'est quoi? Notre idée, c'était de considérer que, si on regarde bien, le Marathon pour tous, donc c'est quelque chose qui a été mis en place par Paris 2024, avec un objectif initial qui était un objectif de santé pour tous. Donc, par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est hyper cohérent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, santé pour tous égale mobilisation des ressources, gestion des ressources, et donc faire en sorte que finalement, on pratique tous à des intensités qui ne soient pas trop élevées. C'est pour ça que c'est très rare qu'il y ait des défis avec du temps, et quand il y a du temps, c'est un temps qui est, on va dire, relativement accessible. J'ai bien dit relativement, hein, c'est toujours relatif à chacun et c'est toujours subjectif. Et deuxième chose, on voit que les charges des défis, 30 km par semaine, par mois, 10 heures par mois, là en février c'était ça, c'est pas des charges qui sont des charges proches de celles d'un d'un sportif de haut niveau. Bon, toi comme moi, on pourrait avoir les 30 km, bah moi je les ai fait en 3 jours, toi aussi j'imagine, les 10 heures, on va dire en 7-8 jours, c'était fini. Donc on voit bien que selon la nature de l'intensité de nos entraînements, ces charges, elles vont être plus ou moins donc, sur une semaine ou sur un mois. Donc ce que je veux dire, c'est que le marathon pour tous, ça a vraiment été créé pour faire en sorte qu'effectivement beaucoup de gens puissent y participer, et donc on est vraiment sur une logique de santé. Ça rejoint ce qu'on expliquait sur la motivation intrinsèque et extrinsèque, c'est-à-dire que ici c'est proposer un défi, donc proposer une source de motivation extrinsèque, à savoir des défis, pour inciter les gens à créer une habitude. C'était vraiment ça au départ le truc. C'est l'habitude vient du fait qu'on va reproduire un comportement et qu'on va continuer de s'engager dans ce comportement. Donc l'habitude, elle vient vraiment du fait que on va accepter l'idée de répéter, puis répéter, puis répéter. Donc c'est important dans la création d'une habitude d'avoir des motivations extrinsèques. Parce qu'on peut être motivé intrinsèquement pour se mettre au sport, mais si derrière on n'en a pas des bénéfices secondaires, on va très vite abandonner. Donc je trouve que le projet du Marathon pour tous, c'est un super projet sur le plan de la santé publique. Dans l'idée, c'est vraiment très bien. Maintenant, et là, nous, on voulait simplement mettre une limite ou mettre une tension sur ce projet par rapport à ce qu'on vient d'expliquer. On vient de dire que l'objectif de santé et de performance, il n'est pas conciliable. Bon, on a aussi dit qu'un marathon, ce n'était pas forcément un objectif de performance pure qui n'était pas directement... comme un ultra trail ou comme un Ironman, que en tant que tel il fallait voilà. Donc ce que je veux expliquer, c'est que malgré tout, les défis qui sont proposés, nous on trouve, enfin c'est une analyse qu'on fait, hein, Bertrand, je pense que je t'inclus hein, dans cette réflexion, mais ce sont des défis qui ne sont pas révélateurs de la charge de travail entre guillemets nécessaire pour préparer un marathon. C'est-à-dire que là on est sur 30 km à l'échelle d'un mois. Quelqu'un qui veut préparer un marathon entre guillemets dans de bonnes conditions, je dis pas de réaliser sa meilleure perf, hein. J'ai pas dit ça, hein. Je dis pas de réaliser sa meilleure perf, je dis quelqu'un qui veut réaliser un marathon juste pour le réaliser, prendre du plaisir, ne pas souffrir pendant le marathon, il faut qu'il soit au moins sur une échelle de 30 km par semaine. Et quand je dis au moins, je suis gentille, c'est-à-dire que j'essaye d'être vraiment dans, voilà, dans, là c'est une litote presque, hein, mais quand même, on est là-dessus. Quand on voit qu'on est sur des trucs de 10 heures, c'est pareil. Hein. Quand on commence à préparer un marathon, si on n'a pas entre 5 et 7 heures, allez, on va dire 5 et 7 heures d'activité dans la semaine, je ne dis pas de course forcément, mais on peut faire du vélo, on peut faire du cardio, on peut faire d'autres choses, ça va être compliqué. Donc en fait, nous, la seule limite qu'on voulait mettre à ça, c'est que peut-être qu'il y a des gens qui vont être tirés au sort avec ce niveau de contrainte-là, et qui n'est pas du tout révélateur d'un niveau de ressources suffisant pour ensuite préparer un marathon. C'est exactement ce qu'on expliquait tout à l'heure sur l'histoire de la capacité. C'est-à-dire que c'est intéressant de dire, OK, très bien, on a tous plus ou moins une capacité de réserve à partir de laquelle on peut s'entraîner et créer un plan. C'est ça, hein, l'entraînement fondamental. Créer un plan, c'est on part d'une base, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se blessent aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, on pense que, vas-y, on prend un plan sur Internet, on prend un plan de 10 km, c'est parti, je vais préparer un 10 bornes. Ouais, mais si derrière le corps, il n'est pas prêt, si derrière, il n'y a pas cette capacité, ce volume en amont suffisant, c'est très compliqué, en fait, de tenir une charge d'entraînement et de tenir une sollicitation d'entraînement de type, par exemple, plan de 10 km. Et donc, qu'est-ce qu'on veut exprimer? On veut exprimer le fait qu'il est possible que le marathon pour tous conduise, à mon avis, déjà, beaucoup de personnes qui ne vont pas prendre le départ. Donc, peut-être que les 20 000 24 dossards auront peut-être été attribués, mais ne seront peut-être pas tous sur la ligne de départ. Et c'est juste un petit peu dommage d'avoir confondu, sans doute, objectif de santé publique et objectif de performance. C'est-à-dire que je pense qu'on aurait pu faire la même chose à l'échelle d'un 10 km, déjà, parce que c'est quand même quelque chose de beaucoup moins sollicitant, beaucoup moins contraignant sur le plan musculaire et physiologique. On aurait pu aussi ouvrir à beaucoup plus de gens, parce qu'on a beaucoup plus de gens qui sont capables de courir un 10 km que de courir un marathon. Parce que même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, le marathon n'est pas en soi un objectif dans le sens « je veux le finir », il y a quand même un peu de ça, parce que le problème du marathon, c'est que c'est plat, c'est que on est souvent dans la même répétition d'un point de vue musculaire, d'un point de vue articulaire. Donc, ça crée en fait des contraintes, des problématiques sur ce plan-là. Et puis, on est aussi sur des vitesses que l'on va sans cesse essayer de pousser. Et la problématique du marathon, c'est que justement, avec ces vitesses-là, on va se rapprocher de ce fameux seuil anaérobie vers lequel on va rebasculer dans des... dans une filière lactique avec la production d'acide lactique, une acidose musculaire. Et donc, c'est ça un petit peu le mur du marathon. Et c'est pour ça que c'est difficile, en fait, de faire un marathon, parce que si on va trop vite, si on part trop vite, bah, y a cette acidose qui se produit de manière trop précoce dans la course. Et donc, bah, derrière, on a toutes les chances d'abandonner, en fait, et on a toutes les chances de ne pas pouvoir tenir le marathon dans sa totalité. Voilà. Donc, c'était un petit peu le point qu'on voulait aborder, parce que ça permet, ça vous permet, vous qui nous écoutez, aussi de pouvoir toujours vous poser la question de « Ok, là, je me place dans quelle logique ? Est-ce que je suis dans une logique de plaisir, de santé, ou est-ce que je suis dans une logique de performance ?» Parce que je pense que c'est important, et je pense que c'est pas une question qu'on a tendance à se poser spontanément, c'est pas forcément une question qui nous vient à nous-mêmes tout seuls. Alors après, bien sûr, la réponse, elle est complexe, elle est systémique et elle n'est pas forcément toujours non plus, elle ne vient pas d'emblée. Hein, mais déjà, se poser la question, je pense que c'est important pour simplement se recentrer, se refocaliser, se dire, OK, concrètement, qu'est-ce que je veux dans ma vie ? Et voilà, alors on dit souvent cordonnier le plus mal chaussé, mais je crois vraiment que moi, je ne me suis pas posé cette question au mois d'octobre, que je ne me suis pas rendu compte que finalement, ce dont j'avais besoin en ce moment, c'était plutôt une pratique de loisir, de plaisir, de santé, m'aérer le plus souvent possible parce que j'ai une charge de travail qui est très importante au quotidien. Et j'ai voulu faire un marathon qui, à mon avis, n'était pas au bon moment, surtout, enfin, j'ai voulu faire un marathon en faisant ma meilleure performance. Attention, je précise, voilà. J'ai vraiment voulu m'entraîner, je me suis créé un plan de. Pour faire en sorte de créer, d'avoir mon défi personnel, mon record, qui est sur des allures qui sont déjà rapides. Forcément, bah, c'est allé à la catastrophe, à la blessure. Et je pense que c'est vraiment important de se poser ces questions, parce que grâce à ça, eh ben, en fait, pour moi, c'est ça, gérer sa vie physique. Être capable de gérer sa vie physique, d'être autonome dans cette gestion, c'est ce qui fait qu'on va durer. C'est ce qui fait qu'on va continuer de prendre du plaisir. C'est ce qui fait que l'activité ne sera pas une contrainte, mais un plaisir. Parce que si on fait du sport, il faut toujours quand même se souvenir que tant qu'on n'est pas sportif de haut niveau et qu'on n'est pas payé et qu'on n'est pas professionnel pour faire du sport, ben on le fait parce que ça nous fait plaisir. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de sportifs qui trop souvent se mettent des barrières, se mettent des contraintes, se mettent des pressions, alors que faisons-nous plaisir, quoi. Enfin, je veux dire, on n'a que ça à faire et c'est tellement cool, on a tellement de chance de pouvoir bouger, de pouvoir être dehors, de pouvoir aller s'entraîner. Moi, je me le dis presque à tous les moments où je vais courir, quoi. Voilà, on a beaucoup de chance parce qu'on a cette possibilité-là, et donc profitons-en. Et je pense que ça, c'est important. Je ne sais pas ce que tu penses de ça, Bertrand, mais...
Oui, et puis alors, je viens de te dire, c'est que Nathalie Simon l'a dit avec ses mots à elle, parce qu'elle a dit « Je ne joue pas ma vie, en fait, maintenant c'est dans ça. Le sport, je ne suis plus c'est professionnelle. » Et elle le dit, elle dit « Elle ne veut pas tout brûler, elle veut avoir cette vision plaisir et tout. » Et je crois que sur l'histoire du marathon pour tous, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que on peut franchement, c'est vrai, sans avoir une pratique intense, on peut gagner son dossard pour le marathon pour tous. Parce que le jeu est comme ça et il y a pas, c'est vrai, ceux qui courent beaucoup vont trouver que c'est injuste pour eux, parce que il y a des gens qui courent pas beaucoup, et moi-même, hein, il y a des trucs, il y a des challenges, quand je vois qu'il y en a un qui le fait une fois et qui a le truc, et que nous on a 5 tentatives et qu'on l'a pas, je dis, je râle un peu, mais je dis, c'est le jeu aussi. Par contre, après, ça veut dire quand même que si vous gagnez le dossard là maintenant cette année, il restera quand même, là il nous reste plus d'un an pour le préparer, pour être au départ. Donc il y a cette pratique au quotidien, de se faire plaisir, etc. Et puis après, il faudra fixer l'objectif qu'on se fixe soi-même sur ce jour de ce fameux marathon, de savoir si on est là pour faire une perf, c'est-à-dire essayer de battre son record, si on a déjà fait des marathons, sachant qu'il y a des dénivelés, hein, c'est pas le marathon le plus plat du monde, hein, on n'est pas à Berlin ou je sais pas où, ou si on y va juste pour profiter de la fête, on y va en mode plaisir, parce que ça va aussi changer la mode de vision qu'on aura de l'entraînement, comment on va préparer ça, quelle vision on va avoir, les sorties qu'on peut faire, la distance qu'on va faire, est-ce qu'on va se mettre au taquet, et pendant combien de temps. On en avait parlé de la durée des plans aussi de prépa, parce que je pense que ça joue aussi. Donc il y a tout un tas d'éléments, et c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question, et que finalement, de la manière qu'elle a abordé et qu'elle a précisé, c'était intéressant de rebondir dessus pour se reposer cette question-là et de l'avoir en tête. Vraiment de se dire, bah tiens, il y a des moments où on a besoin de ça, il y a des moments où on a besoin d'un autre truc, et les deux sont peut-être incompatibles sur l'instant, mais ne sont pas incompatibles dans le temps, dans la gestion du temps, et qu'on doit pouvoir passer de l'un à l'autre pour continuer à durer le plus longtemps possible, quoi.
Ouais, c'est ça, j'aime bien. Et je pense que c'est vraiment important. Moi, c'est un truc sur lequel j'aurais aimé réfléchir plus tôt, sur lequel... Parce que je pense que c'est comme ça qu'on se blesse, quoi. C'est quand on réfléchit pas à tout ça. Mais une nouvelle fois, j'aime pas quand tu dis que tu fais n'importe quoi. Je pense qu'à partir du moment où on est dans une logique, alors surtout toi, parce qu'avec les connaissances que tu as, tu peux pas faire n'importe quoi, c'est pas possible. Je pense que à partir du moment où on est dans cette logique de plaisir, arrête de hocher la tête. À partir du moment où on est dans cette logique de plaisir, je pense qu'on fait jamais vraiment n'importe quoi. Sauf si justement on met trop d'intensité tout le temps. Et du coup, bah là, en fait, on n'est plus dans une logique de plaisir, on est dans une logique de perf qui n'est pas coordonnée. C'est-à-dire, j'aime me faire plaisir et j'aime faire des intensités, je pars comme un taré, je m'échauffe pas, je fais des 30-30 en permanence à fond, bah, on n'est plus dans une logique de plaisir, on est dans une sorte de sollicitation des ressources sans les organiser, sans les coordonner, sans réfléchir à l'ensemble. Et du coup, là, c'est faire n'importe quoi. Toi, c'est pas du tout ton cas. Toi, t'es plutôt dans cette logique. Tu sais ce que c'est que de t'échauffer, etc. Donc après, on pourrait, je pense, refaire un épisode plus tard sur, effectivement, comment on préserve sa santé par l'activité physique. Je pense que ça, on en a un petit peu parlé, mais pas encore à fond. Notamment, c'est quoi bien s'échauffer, c'est quoi écouter son corps, c'est quoi écouter ses repères. Et ça, je pense que c'est des choses qui intéressent beaucoup les gens. Et donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire, parce que je pense que c'est important d'avoir des repères. C'est quoi ces fameux repères, c'est quoi ces zones dont on parle, c'est quoi ces allures, et ça c'est très très difficile à construire et ça demande du temps, mais je crois qu'il faut accepter aussi, c'est peut-être le message que j'ai envie de faire passer, c'est que Nathalie Simon, son parcours, moi je le trouve vraiment aussi très beau pour le fait que elle a été capable de faire cette transition entre de la compète et de la santé, mais aussi elle a été capable, avec beaucoup d'intelligence, de remobiliser des éléments qu'elle avait utilisés dans la compète, tout en créant de nouveaux éléments. Parce que clairement, à mon avis, elle, et je crois qu'elle en parle un tout petit peu, hein, elle dit qu'au départ, le triathlon, elle ne connaissait pas vraiment. Ouais. Et en fait, elle s'est formée. Et je crois qu'aujourd'hui, le problème, et c'est vraiment une problématique des réseaux sociaux qui fait que les réseaux sociaux, qu'est-ce qui conduisent à quoi? Ils conduisent au fait qu'on pense. On voit, c'est souvent ça, on voit souvent cette image de la face émergée de l'iceberg, de la face immergée. En fait, quand on voit les gens sur les réseaux, qu'on fait un marathon, qui font ci ou qui font ça, on pense que c'est simple et on se dit, on ne cherche pas à documenter l'avant. Alors oui, il y a une prépa, d'accord. Oui, il y a peut-être une prépa marathon. Mais avant la prépa, il y a eu quoi en fait? Depuis combien de temps les gens y courent? Quelles sont leur hygiène de vie? Comment ils dorment, etc., etc. Et en fait, toutes ces questions-là, on ne se les pose pas. Et moi je trouve ça vraiment intéressant, c'est vrai que c'est un truc, ça me fait souvent rire, mais je trouve ça intéressant de voir ce que les gens mangent, comment ils dorment, quelles sont leur hygiène de vie, etc., parce que c'est ça aussi qui nous renseigne concrètement la réalité entre guillemets de la pratique, et qui permet de se dire bon ok, ils font ça pour telle et telle raison. Donc voilà, donc Nathalie Simon, c'est quand même un exemple de longévité, c'est un exemple de reconversion. Moi je suis très heureuse pour toi que tu aies eu la chance de pouvoir échanger avec elle. Je suis contente pour vous qui nous écoutez, parce que je pense que c'est un épisode qui est inspirant. Déjà, c'est un épisode qui est inspirant. On sent que c'est vraiment une femme chouette, qu'on a envie d'écouter, qu'on a plaisir à écouter, et donc je trouve ça très bien, et je trouve ça cool qu'on ait pu aussi faire un rebond dessus, parce que je trouve que ça en valait la peine en fait.
Bah écoute, toi aussi on a envie de t'écouter un peu plus longtemps, mais on va conclure pour aujourd'hui, hein, tu vois, moi je prendrais bien un petit peu de rab, mais bon, on va conclure.
Je te ferai un rab après si tu veux.
Merci, ça fait 42 minutes qu'on
rebondit. Ah ouais, on avait dit 30 alors.
Donc on a un petit peu un rab, non mais après, et pour l'aspect documentation, alors tu l'as pas fait peut-être comme ça, mais je rappelle quand même que Kilomètre 42 est né de cette volonté de documenter ce que j'ai fait au départ. Si vous n'avez pas écouté les premiers épisodes de Kilomètre 42, la première saison, alors vous verrez, le son est différent, tout est différent, le bonhomme est différent, et vous allez comprendre pourquoi je me suis planté sur mon premier marathon, ma première prépa, et pourquoi ma deuxième prépa, elle est passée, et pourquoi les doutes, les peurs, les craintes, etc., j'ai tout documenté. Et c'est aussi ce que je fais sur Kilomètre 350, sur ma préparation Gravelman, où je documente justement des trucs qui peuvent paraître pour un cycliste averti, quelque chose qui est débile, mais dire j'arrive pas à mettre 14 vélos dans ma semaine, pour l'instant, c'est vraiment, en fait, parce qu'il y a des nouvelles pratiques, etc., et j'ai décidé de documenter vraiment en façon débutant, parce que je suis débutant que je suis, c'est aussi pour ça, et je sais qu'il y a des gens qui écoutent les premiers épisodes en ce moment, qui vous prépare le premier marathon, qui cherche le truc, qui se rend compte de ça, etc. Et vraiment, tu vois, ce que tu as dit sur l'alimentation, sur ma pré-préparation vraiment de trucs, faire du renforcement, du gainage, des choses comme ça que je faisais pas du tout, je me suis mis à le faire, changer mon alimentation, faire attention à mes chaussures, à ma foulée, à ma fatigue et tout. Et c'est des trucs que j'ai fait attention. C'est comme ça qu'est né Sam d'ailleurs, hein. Je le dis très clairement, hein, ce triptyque sommeil, alimentation, mouvement est né aussi parce que il y a un moment donné, je me suis dit, mais comment je vais faire pour arriver à faire ce truc-là qui me paraissait insurmontable au départ. Et maintenant, on peut rigoler, on dit, ouais, mais attends, quel marathon, c'est 42, t'as fait 136 dans le 24 heures. Ouais, sauf que le jour où je m'aligne pour marathon, je vais jamais y arriver. Mais mon premier 13 aussi, je l'ai fait. Et bien, tout ça, vous l'avez dans la première saison du podcast. Donc, si vous l'avez pas écouté, vous allez avoir cet aspect-là dont tu parles. Bon, ben, écoute, tu m'as permis de faire ma pub, tu vois, je te remercie.
Non, mais je pense que c'est important effectivement déjà d'écouter ce qu'a le parcours de Bertrand. Déjà, il est inspirant aussi, tu es inspirant et c'est très sincère, mais après l'idée c'est aussi de se dire partez d'expériences comme celle de Bertrand, c'est très bien, c'est un très bon point de départ parce que je pense que on entend des choses qu'on ne ferait pas ensuite, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose de super important, c'est faites-vous accompagner. Pour pouvoir devenir autonome, je le dis toujours, hein, pour pouvoir devenir autonome, il faut au départ avoir un cadre. L'autonomie, elle est possible à partir du moment où on s'est affranchi d'un cadre parce qu'on l'a compris, parce qu'on est capable de le critiquer, parce qu'on est capable de prendre du recul. Mais en tant que tel, pour être autonome, il faut déjà avoir vécu un cadre et compris un cadre. Et donc, faites-vous accompagner avec quelqu'un de compétent qui va vraiment vous guider et qui va faire en sorte que la contrainte qui pèse sur vous... Alors après, c'est pas parce que vous allez vous faire accompagner qu'il n'y aura pas de blessure, d'aléas ou ce genre de choses. Hein, parce que forcément, la blessure, ça serait trop simple. Hein. Malgré tout, l'accompagnement permet vraiment d'éviter des grosses, grosses blessures, je pense, et des grosses périodes d'arrêt, quoi.
Eh bien, écoute, on va conclure là-dessus. Ça sera le petit mot. De toute façon, on va mettre les liens. Alors bon, vous avez l'habitude, dans la description de l'épisode, les liens pour me retrouver, moi, à droite à gauche, pour retrouver Laure partout. Instagram, toujours pas de TikTok. Hein, tu danses pas sur TikTok, toi, t'es pas...
Non, je danse pas sur TikTok. Non.
Bon. Tant pis. Non, mais tant pis. Écoute, c'est comme ça. Mais moi non plus, j'ai arrêté de danser sur TikTok. L'autre jour, d'ailleurs, j'ai une question qui était super intéressante. Un jour, on la traitera parce que je pense que ça posait beaucoup de questions. Mais est-ce qu'on peut faire des photos et des vidéos de sa course tout le temps et combiner ça avec un objectif de performance? C'est une remarque que j'ai eu l'autre jour sur Instagram qui était très bonne. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'une minute perf parce que ça rentre exactement dans cette distinction entre loisir, performance et comment on voit les choses. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des questions, des remarques, tout un tas de choses comme ça, notamment pour les prochains épisodes. On a un beau programme hein, qui nous attend. Et puis je dois le dire quand même, c'est que la minute perf de la semaine avec la partie sur les problèmes gastriques a déclenché un nombre de discussions, de commentaires sur mon compte Instagram avec les uns et les autres qui vont avec des astuces, etc. On voit que c'est un vrai problème. Donc effectivement, on ira plus loin. Donc n'hésitez pas à nous envoyer tous ces retours qui nous montrent vraiment sur comment on peut vous aider. Sur ce, bah écoute, je vais clore cet épisode.
On sent que t'as vachement envie de clore en fait.
Arrête.
On sent que t'as pas du tout envie de clore. On sent que t'as pas du tout envie. On sent que t'as envie de laisser traîner, durer.
Non, mais...
C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Plus c'est long, plus c'est bon, c'est ça.
Voilà. Alors, on va éviter d'aller dans ce sujet-là, ma chère Laure. Je te souhaite une très, 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 très belle journée. Je te remercie en tout cas pour ces éclairages.
C'est un plaisir. Tu te rends compte, je vais quand même faire une analyse de la vie de Nathalie Simon, quoi. Tu te rends compte? Enfin, je suis très honorée, vraiment. Je suis très honorée. J'espère que Nathalie écoutera cet épisode et qu'elle verra l'admiration qui est la mienne pour elle, quand même, hein. Parce que bon. Non, vraiment,
je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui l'admirent parce que j'ai eu des retours de gens qui me disaient, beaucoup de gens qui disaient qu'ils l'admiraient, qui étaient impressionnés aussi par comment elle vit, comment elle fait et tout, qui sont peut-être
elle est admirable au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il peut être admiré parce que vraiment elle a tout pour être admirée, c'est clair.
Ils sont peut-être intimidés, tu sais, par son parcours en disant oui, mais elle le fait parce qu'elle était une professionnelle avant, qui était championne, etc. Mais je pense que l'épisode montre.
Elle avait la base dont on parlait tout à l'heure. Malgré tout, c'est ça. Hein.
Tu vois, mais ça montre aussi qu'elle a des efforts, qu'elle fait des efforts, qu'elle fait beaucoup de choses pour y arriver aussi. Et ça remet un petit peu l'église au centre du village, comme on dit. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a été qu'on est forcément maintenant. Mmh. Si on arrête, je pense que l'exemple qu'elle donne avec d'autres, quand elle parle de Maryse Evin en GP, etc. et tout, est assez parlant d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a beaucoup de sportifs, on se rend compte qu'après, au bout d'un moment, ils font plus beaucoup de sport. Et quand ils s'y remettent, c'est très compliqué. On avait parlé avec Steve Savidan notamment. Et que, elle a une caractéristique, c'est qu'elle a compris que sa santé, ça passait par cette activité et elle a très bien partagé. Voilà, bah écoute, on va pas repartir hein, parce que sinon moi je remets une pièce de 10 balles. Enfin, ouais, il y a plus de pièce de 10 balles maintenant. Mais
ça vous, j'ai rien dit.
Non mais c'est ça, et quand t'as 46 ans et que t'as connu le franc, tu sais, tu as droit de parler en franc quoi. Et donc, et bientôt en ancien franc. Bon alors, madame, je mets tous les liens, bien entendu, on se retrouve très bientôt. Bah écoute, pour la minute perf, tu veux annoncer le sujet ou pas?
Bah oui, je crois qu'on peut l'annoncer, c'est quand même important. Justement, on va continuer de parler des femmes.
Oui.
On va faire un épisode spécial pour la femme, puisqu'il y a la Journée internationale des femmes.
Des droits des femmes, oui.
Ouais, du droit des femmes. Alors voilà, il y a cette petite limite, la petite limite. Mais là, tu peux me lancer pendant là. Donc moi, c'est une thématique qui me tient énormément à cœur. Et je suis très, 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 très contente de pouvoir faire ça avec toi, Bertrand. Vraiment, c'est chouette. Je trouve ça super.
Ouais, c'est un sujet qui pour nous, alors je le dis hein, les hommes, sujet à écouter aussi parce que je pense que on a plein de trucs à comprendre. Il y a des trucs qu'on peut pas comprendre comme ça si on nous l'explique pas, hein, soyons clairs, donc sur la compréhension. Et donc on va parler de tous ces sujets-là, donc ça sera la prochaine minute perf. J'ai hâte hein, de découvrir tout ce truc-là. Je le dis, hein, c'est qu'on est dans une semaine spécifique où je n'ai que des femmes en invité, pour ceux qui se posaient la question. Donc Charlène la semaine dernière, Nathalie Simon, toi bien entendu, ma prochaine invitée de Kilomètre 350, la prochaine invitée de Kilomètre 42 aussi hein, et alors là un sujet franchement ça va c'est pas facile mais c'est aussi super important et ça sera justement diffusé le jour ce fameux jour du 8 mars donc c'est vraiment très important pour moi en tout cas et ça fait vibrer mon petit cœur de papa en plus très fortement donc voilà et puis après j'ai calé les prochains invités je vous dis pas plus mais j'en ai calé quelques-uns on va avoir d'autres thématiques pour continuer à progresser. Sur ce, je clôture ce bel épisode. Je te remercie, Laure. Je te souhaite une belle journée. Je vous remercie tous. On se retrouve.
Je remets pas de pièce
très
de
bientôt. Ne remets pas la pièce de 10 balles, s'il te plaît. Et je vous dis, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à nous remonter les questions. Et comme ça, on pourra rebondir.
Mais évitez quand même les questions de caca dans les bois. C'est sympa, mais.
C'est fini. Les questions de caca dans les bois.
On l'a donné.
C'est fini. Maintenant, on va être sérieux. Hein, voilà. Ciao, ciao.
Au revoir, à bientôt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.